Bienvenue à ce premier 5 à 7 du cycle de conférences de Salon d'eau qui en est à sa deuxième édition ici à Québec. Donc, on va commencer peut-être par quelques mots sur le projet. Salon d'eau, c'est une revue en ligne qui se consacre à la littérature contemporaine. Elle a été créée en 2008 à l'initiative de Bertrand Gervais et du Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura de l'Université du Québec à Montréal et de René Audet, et de la chaire de recherche du Canada en littérature contemporaine de l'Université Laval. Donc, c'est une équipe quand même de plus en plus nombreuse qui se sépare dans trois villes. Donc, à Montréal, on retrouve Amélie Paquette, Simon Brousseau, Gabriel Godin. À Ottawa, il y a... puis c'est vrai, j'ai oublié une nouvelle membre qui est Laurence... Laurence, qui on apprécie beaucoup. Ensuite, à Ottawa, oui, donc il y a Brigitte Fontier et Pierre-Luc Landry. Et à Québec, Marie-Hélène Voyer, Myriam Saint-Yves, Stéphanie Desrochers, Pierre-Paul Ferland et moi-même, Viviane Assin. Donc, les lectures que Salon Double diffuse sur le web se situent entre la critique littéraire et l'article scientifique. Et c'est dans cet esprit d'ouverture que s'inscrit la série de conférences mises sur pied à l'automne 2010. L'idée est non seulement de faire connaître la revue, à laquelle d'ailleurs vous êtes invités à contribuer, mais également de créer un espace stimulant et accessible pour échanger sur la littérature contemporaine. Et c'est donc là le défi lancé aujourd'hui à Antoine Tanguay, éditeur chez Alto, que nous sommes très, très heureux d'accueillir. Et sa conférence s'intitule « Besoin des fantômes » et sera suivie d'une période de discussion. Donc, je cède la parole à Antoine et je le remercie en passant de cette
présence. Merci beaucoup. Réglons les détails techniques d'abord. Si je parle comme ça va tout le monde m'entend? Correct? Cool. OK. Conférence est un grand mot. Je suis... il faut le dire, je suis légèrement intimidé dans la mesure où c'est un contexte, et d'ailleurs je suis très content de l'invitation dans ce sens-là, parce que c'est un contexte où on parle beaucoup des textes, à l'intérieur même des textes, leur portée, leur réception, mais de plus en plus, et c'est ce qui me fascine, dans les dernières années, le rôle de l'éditeur, ou à tout le moins l'image des maisons d'édition, parce qu'il y a eu l'apparition quand même de plusieurs petites maisons d'édition, ont changé la façon d'entrevoir le processus de publication qui dépasse, bienvenue, bonjour, qui dépasse la simple impression. Vous avez des gens qui sont éditeurs, certes, mais vous avez aussi de simples publieurs, ce qui est pas mal en soi. Mais on assiste avec, par exemple, Cartanier, La Peuplade, les éditions de ta mère, il y a plusieurs maisons d'édition qui sont en train de changer le regard qu'on a sur le processus d'édition, dans la mesure où ils s'impliquent de plus en plus, non seulement dans la création des textes, c'est-à-dire qu'ils accompagnent les auteurs du début, donc jusqu'à la publication, et même au-delà, c'est-à-dire dans la promotion, dans les salons, dans les événements, dans les conférences, mais aussi dans la création même de l'objet et dans sa mise en marché. Donc, et ça a contribué, vous le remarquerez, à la création d'une identité visuelle pour certains forte. On reconnaît les livres des éditions de ta mère, de La Peuplade. On a une signature, donc une philosophie éditoriale qui s'installe. Tout ça contribue donc à montrer que l'utilisation des médias sociaux aussi est une autre chose qui est de plus en plus répandue, et d'ailleurs beaucoup plus chez les petites maisons d'édition, et certainement avec plus de succès, que les plus grands éditeurs qui continuent à faire un très très bon travail, mais qui, par un juste retour des choses, ont regardé un petit peu plus ce qui se fait aujourd'hui pour prendre certaines leçons. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pris des leçons des grands, j'ai regardé ce qui se faisait, donc on revient en 2005, j'ai regardé d'abord ce qui était offert dans le marché pour essayer de faire différent et d'avoir, dès les premières saisons, une identité littéraire, certes, mais aussi une identité visuelle et une philosophie qui était apparente dès le départ. Donc, pour vous faire un topo rapide, parce que j'ai tendance à être assez verbeux, mais j'ai fait un plan, c'est la première fois peut-être depuis que je suis sorti de l'Université Laval, j'ai fait un plan, j'en fais jamais parce que ça a tendance à plus me stresser qu'autre chose, mais je vais comme ça pouvoir vous diriger de façon plus ou moins ordonnée dans ce processus, En partant, bien entendu, des exemples des éditions Alto, j'ai apporté quelques livres pour vous montrer un peu ce qui s'est fait au fil des ans, mais aussi pour réfléchir, et on en discutera après, sur le rôle donc des dinosaures et des fantômes. Donc, si je reviens à l'intitulé de la conférence, c'est donc « Besoin des fantômes », dans la mesure où les éditeurs sont souvent invisibles, ils le sont moins aujourd'hui, mais ils sont quand même, ils hantent, si on veut, les murs de la littérature. Et d'un autre côté, est-ce que nous sommes des dinosaures, dans la mesure où le monde du livre québécois et ailleurs est en train vraiment de changer, c'est-à-dire que les rôles de chacun sont redéfinis, le numérique a contribué, mais vraiment de façon très importante, à la redéfinition du rôle de chacun, et ces dinosaures-là, malheureusement, ont tendance à pas s'adapter à ça. On le voit d'ailleurs tout récemment avec l'annonce par les bibliothèques de Québec d'un virage numérique, parce que comme on sait, la Ville de Québec aime bien se targuer d'être à l'avant-scène, et s'ils avaient pu inclure Robert Lepage et le Cirque du Soleil dans le numérique, ils l'auraient fait. Mais ils vont donc acheter, c'est ce qu'ils ont annoncé, 30 000 livres numériques dans leur collection d'ici 2020. Ce qui, si vous faites un calcul rapide, veut dire 4 000 titres par année d'ici 2020. Moi, je suis d'accord avec le principe, j'ai pas de problème. J'ai un petit pincement au cœur parce que je me pose des questions sur les collections dites physiques et l'endroit ici dans lequel on est et l'incarnation de ça, c'est-à-dire cette bonne vieille présentation papier que j'affectionne. Je suis un lecteur d'ailleurs avant tout de papier. Mais à 4000 titres, est-ce qu'on va pas acheter n'importe quoi? Ce qui pourrait paraître un peu pédant. Mais non. Parce que récemment, et ça va être le cas aussi ce soir, on a vu des gens passer, faire fi de la chaîne traditionnelle pour passer donc de l'édition à l'auto-édition, à l'auto-promotion par les médias sociaux et tout ça. Donc, du coup, envoyer un message clair aux acteurs dits traditionnels qu'il est possible de passer cette chaîne-là et d'être publié, et souvent, ça arrive, de connaître un succès. Donc, est-ce que ça veut dire que les éditeurs dits traditionnels ont fait des erreurs? Est-ce qu'il faut qu'on regarde ça? Je pense que oui, c'est nécessaire. Et donc, il est venu le temps, c'est pas un tournant, c'est pas un carrefour non plus, ce qui impliquerait peut-être un virage un peu trop brusque, ce qui ferait que certaines personnes pourraient débarquer de la voiture dans le virage, mais c'est vraiment un tournant, donc ça se fait plus en douceur, et on change le cap, mais on s'adapte. Et dans le cas d'Alto, c'est presque assez naturel, certains diront que c'est peut-être générationnel, mais ça a été naturel que de s'adapter à ce virage-là et de repenser ses stratégies, que ce soit dans la sélection des manuscrits jusqu'à la production du livre en soi, essayer de repenser toujours pour voir que tous les maillons de la chaîne sont ensemble dans une même mouvance. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on assiste à un retour en force. Y a-t-il eu Avenue? C'est peut-être un retour, je ne sais pas encore, mais il y a une présence très importante des jeunes maisons d'édition qui ont réussi très rapidement à se définir et avoir leur couleur. Je vous donne l'exemple des éditions du Cartanier, qui, quand on dit couleur, c'est facile. Vous avez le Pantone de chaque livre aux éditions du Cartanier, vous mettez le Cartanier sur un mur, c'est magnifique. Vous avez toute une exposition, et là, vous avez le livre, par exemple, qui s'en vient bientôt, d'Alexis Morin, qui est un 396U, c'est un Pantone génial. Archibald, si je crois, c'est un 694, c'est un bleu-gris, donc il y a un maniérisme chez le Cartanier qui est extraordinaire, c'est-à-dire que l'objet lui-même est aussi important que son contenu. Et dans sa philosophie éditoriale, Éric au Cartanier, Éric Larochelière, très bon éditeur, a bien défini déjà tout de suite en partant son projet. On reconnaît les éditions du Cartanier. Et lorsque je faisais mes études à cette distinguée Université Laval, j'entendais parler des éditions de José Corti, que j'aime beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs beaucoup, qu'on voit peu, mais qui ont une réelle signature. Les éditions de Minuit, par exemple, c'est une signature. Vous avez derrière ces gens-là, c'est beau, je me suis trompé, d'ailleurs, c'est derrière ces maisons-là, des gens qui ont forgé un esprit. Et ça, je trouvais ça précieux. Donc, quand j'ai, pour faire un petit peu d'histoire, quand j'ai lancé Alto, j'ai regardé tout ça, et j'ai porté attention à ce que j'appelle les leçons, ou la pédagogie des cracks du plancher. C'est-à-dire que vous regardez ce qui se fait, à Québec, et là j'allais donc à Montréal, moi j'étais donc, j'ai démarré ma boîte à Québec ici, juste en bas sur la rue Lévière, et j'ai donc regardé tout ça, j'ai dit on retrouve tel éditeur, je ne voulais pas être Boréal 2, le MEA 4, ou Fides Bis, ou peu importe, l'idée était de se définir par mon choix éditorial, qui dans le cas d'Alto, est un choix fortement influencé par la littérature anglo-saxonne. Or, le fameux storytelling, ce qui est un mot horrible, qui malheureusement j'ai pas encore trouvé de l'équivalent français acceptable, est un, avant tout un texte, si on veut oser une définition très très incomplète, est un, c'est très naïf d'ailleurs, et ce sont des textes axés sur le récit ou l'avancée d'un récit de façon peut-être un petit peu plus classique. Ce qui n'empêche pas d'être morcelé dans sa forme, c'est que l'esprit, c'était pas une littérature de nombril, qui est pas mauvais, j'ai absolument rien contre, c'était pas dans un mouvement auto-fictif, ce n'était pas une littérature historique, c'était pas une littérature dite régionaliste, ou peu importe, nommez-les les écoles, je voulais une littérature qui nous en transporte ailleurs. Si je n'ai pas réussi à faire décoller littéralement de terre le lecteur ou la lectrice d'un livre d'Alto, j'ai un peu manqué mon coup. L'idée, c'était toujours de créer une surprise, d'essayer d'explorer des avenues que je voyais très, très bien explorées du côté des Canadiens anglais, où il y avait une audace, une volonté de revoir le texte, qui me ramenait à cette audace qu'on a pu trouver dans les années 50 ou 60 en France, où on a repensé un peu la question du roman, certains diront avec de catastrophiques conclusions, mais au moins, il y avait cette volonté de revoir le récit. Et le premier texte qui a été publié, c'était donc Nikolski de Nicolas Duclair. Autre digne diplômé de l'Université Laval. C'est fou, hein? C'est un alma mater extraordinaire. C'est financé, hein, par l'Université Laval. Donc, les commandites étaient en fait... Non, je fais des blagues, mais Nikolski, c'était... Un, parce que j'ai fait mon bac avec lui, j'aimais l'esprit de Nicolas, et j'avais jamais lu quelque chose comme du Nicolas Duclair. Donc, je trouvais là mon premier texte qui définirait dès le corpus québécois. Parce que dès le départ, faut savoir une chose, il y a le corpus québécois, il y a le corpus canadien-anglais et le corpus étranger. Alors, pour moi, c'était... Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait aucune frontière. L'idée de l'abolition des frontières était, si on veut, un thème qui était très important et qui l'est toujours. Je ne mets pas d'étiquette sur mes livres, je ne mets pas roman, je ne mets pas récit, je ne mets pas nouvelle, je laisse les étiquettes aux autres. Parfois, certains textes comme « Sous béton » de Caroline Georges ou « Catéchèse » de Patrick Brisebois sont des textes qui vont faire une petite intrusion du côté du fantastique ou de la science-fiction. Ça me dérange pas, à la limite, ça me fait plaisir, parce qu'il y a, il se dégage de cette volonté-là, une liberté de s'offrir tous les plaisirs, et ça, pour moi, c'était très important, et ça devait transparaître dans le choix des premiers textes. Dans le cas de Nikolski, où les gens disent que c'est un roman où on voyage beaucoup, et qui pourtant est un roman qui ne voyage pas du tout, on reste à la même place, mais on va loin. Et donc, il y avait ce double mouvement, moi, qui m'intéressait chez Nikolski. Ça a trouvé écho, avec le nombre d'exemplaires vendus depuis, disons que ça a bien été. Ça a voyagé, et ça c'est fascinant parce que ça a été très bien reçu, par exemple en Allemagne, en anglais ça a très bien été aussi, donc c'est intéressant de voir que cet imaginaire-là, qu'on disait d'ailleurs au départ qui est un imaginaire pas du tout québécois, eh bien ça a voyagé. Et c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais il y a quand même remarqué cette présence de livres québécois, c'est drôle parce qu'on me le dit souvent, qui sont des livres non québécois. Ce qui me ramène souvent à dire, alors dites-moi ce qu'est un livre québécois. Et de là, souvent, ce sont des préjugés, mais ils sont persistants, de là, souvent, cette volonté de réduire la littérature québécoise à une fiction assez intimiste, parfois, et là je reviens avec ce fameux terme du nombril, ou, d'un autre côté, une littérature d'inspiration historique, si on veut, avec les grandes sagas familiales qui sont, effectivement, très très fortes et qui fonctionnent très très bien au Québec ici. Mais il y a dans les petites trouées, dans les craques du plancher, des créateurs extraordinaires présentement qui sont représentés un peu partout dans des maisons qui ont réussi donc à se définir. Alors, maintenant l'éditeur dans tout ça. Et puis là, je prends pas le code Alto. Je vous disais tout à l'heure que c'est possible d'outrepasser toutes les étapes de la publication. Et c'est une très bonne chose. C'est peut-être pas bon pour les éditeurs, mais c'est bon pour la vie de la littérature avec un grand L. C'est-à-dire que ça force à brasser des idées. Et tout récemment, je me suis pas mal penché sur ce cas-là. Bien entendu, avec l'avènement du numérique, qui est donc le vecteur, si on veut, ou le moteur de tout ce tournant et de cette façon, si on veut, de repenser tout le processus. Alors, l'éditeur, il fait quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est un conseiller? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne fait qu'imprimer? Est-ce que c'est une forme d'agent dans la mesure où il doit stimuler les ventes et, si on veut, l'exportation des idées? Est-ce que c'est quelqu'un qui... ma foi, là, j'ai établi... L'éditeur, quel est son rôle dans le choix de la couverture? Est-ce qu'il va déléguer tout ce processus-là à un infographiste et puis littéralement mettre ça dans le département communication graphique et puis de là oublier ça, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va, avec tous les risques que ça comporte, demander à l'auteur de participer? De grâce, souvent, ça peut donner de drôles de conflits parce que la notion de goût entre auteur et éditeur est parfois assez, on va dire, assez large. Et vous, surtout de grâce, évitez les auteurs qui ont des tantes ou des oncles qui sont dessinateurs ou peintres. Habituellement, ça peut créer des conflits familiaux et vous voulez pas ça. Je vous dirai pas qui, vous me demanderez après. Donc, tout ça pour dire que... Et d'ailleurs, je vous disais qu'il y a des histoires de succès. Bon, J.K. Rowling a été refusée par X avant de publier Harry Potter. Marina Levitska, que j'ai publiée avec une presse... La véritable histoire, non. Oh, l'histoire du tracteur en Ukraine? C'est assez compliqué. Mais roman charmant, qui a été refusé 36 fois avant d'être publié. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 36 éditeurs qui se sont trompés? La question mérite d'être posée. Et d'ailleurs, l'histoire littéraire, de toute façon... pullule de ces cas de figure où éventuellement quelqu'un a trouvé un éditeur. Est-ce que ça veut dire que c'était le bon? Est-ce que ça veut dire que c'était le bon temps? Est-ce que c'était une question de, excusez-moi le terme anglais, est-ce que c'était une question de timing? Toutes ces questions-là, je me suis posées et à chaque fois que je vois, parce qu'il y en a quand même pas mal de manuscrits qui sont déposés chez Alto, à chaque fois que je vois un manuscrit qui est autopublié, ce qui arrive quand même assez fréquemment, ou qui est publié par quelqu'un d'autre, vous vous posez la question parce que on est des êtres faibles. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'aurais dû le publier? Parce que, au malheur, ça m'est déjà arrivé quelques fois, ce titre-là va vendre 5, 10, 15, 20, 25 000 copies. Est-ce que ça veut dire que j'ai fait une erreur ou est-ce que il fallait obéir, et je le fais toujours, même si parfois je me lève la nuit pour me maudire, obéir à une éthique et à une vision qui dit que ce n'était pas un texte pour moi? Ce qui me fait dire, d'ailleurs, petit écart, que lorsque vous recevez, ça vous arrivera peut-être un jour, ça vous est peut-être déjà arrivé, de recevoir cette missive, qui est peut-être la missive la plus horrible à envoyer, je peux vous le dire d'une façon très personnelle, à quelqu'un disant « Nous avons bien, nous vous remercions de votre intérêt envers blablabla, après analyse de votre dossier, nous avons donc convenu que nous ne publions pas votre manuscrit, que nous ne... » Non, ça c'est pas gentil, c'est une formulation plus polie que ça, car il ne correspond pas à notre politique éditoriale. Certains d'entre vous vont me dire formule toute faite. Je répondrai formule adéquate, dans la mesure où souvent, c'est le cas. C'est-à-dire que, c'est vrai. Il y a quelque chose d'organique, de physique, de chimique qui s'installe, d'hormonal, certains diront, qu'il y a quelque chose qui se crée entre le texte, entre le manuscrit, donc le texte en devenir, le livre en devenir, et l'éditeur qui le lit. Et puis, faut pas oublier, il peut le lire dans son bain, il peut le lire dans l'autobus, il peut le lire dans le bureau, ou il peut le lire à peu près n'importe où. Il y a tout le contexte de réception, il y a le contexte aussi dans lequel il s'inscrit. Si vous arrivez avec une histoire de petit magicien lorsque Harry Potter est sorti, vous êtes pas vraiment dans le bon temps. Si vous voulez faire quelque chose avec le mot fiancé et de ce temps-ci, c'est peut-être pas le temps. Donc peut-être faut revoir un peu sa stratégie. Donc, et c'est malheureusement le cas, ce qu'on voit souvent en édition. Vous allez voir ce tsunami qui revient après, ou lorsque quelqu'un a ouvert une porte et a eu un succès avec un type de texte X, vous êtes inondé systématiquement de textes dans les mois qui suivent. Ce qui me fait dire que les gens écrivent sacrément vite. Mais, donc, je reviens à la fameuse phrase toute faite, qui est malheureusement cruelle, mais vraie. Et fait à noter chez Alto, je suis très cruel en plus, puis je m'en excuse déjà s'il y a des gens qui ont soumis des textes chez nous, c'est que je ne fais pas de rapport de lecture. Parce que l'histoire récente m'a montré que j'ai vu passer des rapports de lecture de plusieurs maisons d'édition. Je peux vous en citer un, Nicolas me le permet toujours. Nikolski a été qualifié de « Lorsque vous aurez un projet littéraire, revenez nous voir ». Ce qui en soi était un peu blessant et qui était un jugement de valeur un peu rapide. Parce que, je veux dire, il est physiquement impossible de lire. Présentement, j'ai plus de 600 manuscrits qui attendent. Je peux pas lire, je serai pas avec vous ce soir, je serai en train de lire. Est-ce que ça me servirait à quelque chose? Je sais pas. J'apprendrai très certainement beaucoup sur ce qui se trame et ce que les gens veulent faire. Ce serait probablement très formateur. Mais je ne ferai pas de rapport de lecture parce que je trouve que c'est cruel et c'est injuste et ça ne fait pas nécessairement... c'est pas un bon guide pour la personne qui veut publier. Alors, on utilise la réponse la plus polie, la plus évasive. Par contre, lorsqu'il y a un potentiel, je vais rediriger vers certaines maisons qui, je pense, sont capables d'accepter ce type de texte-là. Et je souligne doublement au crayon jaune, diriger et être utile au texte. Il y a beaucoup de textes pour lesquels je serais d'une inutilité crasse. Et ce serait très malhonnête de ma part, même si je peux considérer que ça va vendre ou telle personne est connue, que de publier un texte parce qu'il y a un potentiel commercial. Ça, ce serait pas honnête. Ça me rangerait, si on veut, du côté des publieurs et non pas des éditeurs. Donc, j'ai encore un peu d'éthique. Je suis encore jeune. Peut-être que je vais changer avec le temps, je sais pas. Mais l'idée est que, quand même, il y a une honnêteté qui est nécessaire, je crois, surtout aujourd'hui. Donc, je reviens à cette personne qui va s'auto-publier. Moi, elle me plaît. Je trouve que c'est, ça prend du cran, de la débrouillardise. Et parfois, ça peut effectivement être intéressant. Maintenant, est-ce que je peux élaborer là-dessus, plus ou moins, parce que c'est passé hors du réseau? Ce que je peux faire, par contre, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, en tirer des leçons. Et d'où l'idée du besoin des fantômes. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, ben humblement, besoin, dans les deux sens, d'un accompagnement, d'un parcours qu'il y a à faire ensemble, et qui part d'un point, en fait. Et ça, encore une fois, c'est mon histoire personnelle. Moi, j'ai jamais rien écrit, j'ai rien publié, j'ai pas de roman. Qui suis-je pour aller voir un auteur qui en est à son 7e livre, où parfois j'ai une différence d'âge, parti alto à 29 ans, j'en ai 37 maintenant, et je dirige quelqu'un qui a 25 ans de plus que moi, qui m'intimide, et je devais donner des conseils à cette personne-là, me dire, non, tu devrais peut-être couper ça, puis je trouve que tu as trop de virgules ici. C'est un peu difficile, il faut le dire bien humblement, je veux dire, je ne suis pas, j'ai pas derrière moi un CV qui le permet. Le seul CV que j'ai, c'est peut-être ce qui m'a aidé, c'est d'avoir travaillé dans plusieurs strates du monde du livre. J'ai été libraire, j'ai été journaliste, et c'est d'ailleurs en étant journaliste que j'ai trouvé l'inspiration pour lancer ce projet-là qui, au départ, je vous souligne, était simplement un petit projet chez Nota Bene, qui m'ont d'ailleurs accueilli avec tendresse et passion, pour m'apprendre à publier et à éditer, pardon, des textes. Et ils ont même pas posé de questions. Au départ, c'était un accident. Nikolski et tous les textes devaient être des divisions, en fait, des éditions Nota Bene, qui étaient séparées, ou plutôt affranchies, des critères de subvention du Conseil des arts du Canada ou de la SODEC. Donc, cette volonté de publier pour recevoir des subventions. Par accident, c'est devenu une maison d'édition. Bon, heureux hasard peut-être. Ça m'a pris quand même quelques temps pour m'habituer à cet état des choses, et ça m'a forcé à créer un programme éditorial cohérent. Donc, c'est pas parce que j'ai publié, parce que j'aime les livres peut-être, parce que j'en ai lu peut-être, parce que j'ai une vision X de la commercialisation, de l'édition, du texte en lui-même, peut-être. Je le sais pas aujourd'hui, je le saurai probablement jamais demain, et je vais probablement mourir en ne sachant pas. Et c'est ce qui fait peut-être que ça me nourrit, parce qu'à chaque fois, et c'est tout à fait vrai, chaque auteur, j'en ai seulement 4 par année, chaque auteur qui dit oui, puis à chaque fois je suis très content, c'est une belle forme de confiance, qui dit « Ok, on va partir ensemble, on va travailler un texte, puis on va en faire un livre », moi j'apprends énormément avec ces gens-là, c'est très 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 différent, j'apprends la façon de travailler les textes, j'apprends à être psychologue, mine de rien, entre-temps j'ai eu un bac en psycho, je blague, mais c'est presque ça, ça vous en prend un, ça m'a appris à parfois me fermer la trappe, quand il faut, ce qui a été très difficile, et ça m'a appris à en savoir beaucoup d'ailleurs, sur ce qui amène quelqu'un à écrire un texte, ça pourquoi d'ailleurs j'ai une admiration sans borne, quand chaque fois je vois un manuscrit arriver, puis il y a le mot fin, je me dis, attends, t'as vraiment réussi à écrire ça, de A à Z, tous les soirs, pendant 1 an, 2 ans, 6 mois, peu importe la durée, le simple fait de mettre le point final à un manuscrit, pour moi, un exploit, et si je pouvais publier tout le monde, je le ferais. Mais, c'est là où c'est intéressant, parce que j'arrive dans ce processus-là, à une étape X, plus ou moins achevée. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que, en apprenant Alto, qui est cette espèce de petite boîte avec des grands projets, j'ai décidé de, dans tout ce processus-là d'édition, de conseil, de fabrication, de promotion, de mise en marché, j'ai décidé d'éliminer les distances, de faire de ce paradigme littéraire de l'édition quelque chose d'un petit peu plus petit, à tout le moins par une forme de microscope plus ou moins patenté, de regarder, d'essayer d'inverser le regard que j'avais sur la sphère littéraire. Donc, on trouve plusieurs acteurs, je vous les nomme. Éliminer les distances d'abord entre l'auteur et l'éditeur, qui était très important pour moi, et que vous retrouvez chez plusieurs petits éditeurs, ce travail de proximité. Ensuite de ça, éliminer aussi les distances, ou à tout le moins les amoindrir, entre l'éditeur et le libraire. Fait très important qu'on souligne pas assez. Ensuite de ça, le lecteur et l'éditeur. C'est autre chose aussi. Là, vous êtes dans la promotion, vous êtes dans la commercialisation, et vous êtes là peut-être dans ce point qui est peut-être le plus important de quoi chez Alto, de cette idée que des lecteurs vont peut-être éventuellement venir vous voir en salon du livre, vous dire c'est quoi le prochain Alto. Ce qui est génial, parce que c'est pas le prochain. Il y a réellement une identité qui s'est créée. Ça a pris du temps, mais une identité qui s'est créée. Ce qui fait que, c'est pourquoi d'ailleurs je fais tous les salons du livre du Québec le plus possible et j'y vais en personne, c'est que je suis capable de rencontrer des gens qui m'appellent Monsieur Alto, ce qui est quand même sympathique, et qui me demandent quel livre vous avez fait. Là, déjà, le verbe faire est assez intéressant, parce que j'ai plus ou moins fait. Et celle qui m'a préférée, ça c'était au Salon du livre de Québec il y a 2 ans, « Monsieur, j'ai tout lu vos livres. » Vous êtes bien gentil, madame, je n'ai pas écrit un. C'est vrai pareil qu'on y pense. Mais il y a cette espèce de connivence qui s'installe, puis ils m'apprennent des trucs. Ils me regardent en me disant notamment, exemple, au Salon du livre de Montréal l'année dernière, ça c'est le livre de David Mitchell qui s'appelle « Les mille automnes » de Jacob Desroux. Je vénère David Mitchell, auteur extraordinaire, vous devez tous lire David Mitchell. Pas nécessairement ceux qui sont publiés chez Alto, ils publiés chez d'autres très bons éditeurs. Notamment Cloud Atlas, qui est un film supposément infect, c'est pas vrai, qui va sortir bientôt d'ailleurs en DVD, qui est un roman majestueux, je considère, en œuvre, c'est une œuvre de fiction contemporaine que tout le monde devrait lire. C'est un auteur génial. C'était mon rêve de publier cet auteur-là. Je savais que je proposais là un type d'ouvrage, une façon de voir le texte et un auteur que les gens connaissaient très très peu. On parle de quelques dizaines de copies vendues au Québec. Mais un véritable visionnaire. J'ai donc décidé d'en faire un livre comme ça. Les gens ont dit « Ah, c'est cool, le livre il a l'air d'une Bible, c'est le fun. » Jusque-là, tout va bien. Les gens l'ont acheté. Beaucoup de gens l'ont acheté. Et beaucoup de gens sont revenus en me disant « Écoutez, je suis pas capable. Pas capable, je vous en veux, pas capable. Il y a trop de personnages, c'est compliqué, je comprends rien. » Et de là, j'ai appris que effectivement, faut des fois se mettre un peu la pédale. Je vais pas m'adapter, je vais pas faire de compromis. Mais n'empêche que il m'est arrivé souvent, puis c'est bien d'avoir cette distance-là du fait que je n'ai pas écrit un, c'est que je peux avoir des commentaires extraordinairement désobligeants sur les livres qui ont été publiés chez Alto. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde. Et là, je fais encore une petite écart ici pour vous dire que pour avoir été critique, pour lire un peu la critique. Pour le peu qu'il en reste ici au Québec, de juger toujours un livre par son objectif et l'atteinte de son objectif. Et non pas, moi, je trouve que cette histoire-là, je l'aurais écrit différemment, ou je trouve que les personnages sont un peu misogynes, ou un peu... C'est pas ça le but. Le but, c'est vous regarder l'élan qui est dans ce texte-là, et vous juger l'accomplissement de l'élan. C'est comme ça qu'on juge un texte. Peut-être que c'est pas un texte pour vous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai une vision de la critique qui est celle d'un guide, qui est plus proche de celle d'un libraire, par exemple. Ou si vous aimez, par exemple, je sais pas, moi, Staline. Bon, peut-être pas le meilleur exemple. Je suis en section histoire. Bon, regardez, c'est fiction. Don DeLillo, excellent choix, d'ailleurs. Chien galeux, très bon livre de Don DeLillo, qui peut être emmerdant comme tout, ça va être coupé au montage, j'imagine, mais qui a fait L'étoile de Ratner, par exemple, un très très bon livre, qui a fait Outre-Monde, qui est peut-être l'exemple de traduction le plus infect au monde, mais Don DeLillo, vous avez là toute une école autour de lui, vous avez Paul Auster. J'ai toujours trouvé ça drôle d'associer Paul Auster, qui était mon sujet de maîtrise avec Bertrand Gervais, d'ailleurs, que j'ai jamais terminé, je m'excuse encore à Bertrand ces jours-ci, vous avez une association de Don DeLillo avec Auster, vous avez toute une école de américaine qui est très forte et de laquelle on peut apprendre énormément d'ailleurs en termes de d'écriture, en termes de souffle, en termes de cohérence dans les bouquins. Ben vous avez ça là. Donc si je suis un critique et que je vois un texte d'un auteur québécois ou chinois ou kurde, peu importe, l'idée est que l'esprit se rapproche de celui de Lilo, alors vous allez travailler comme un libraire, vous allez dire si vous appréciez et on y va comme ça et puis on peut s'inspirer du web dans ce cas-là. On y va par association, on y va par proximité, un peu comme Facebook nous énerve avec vos amis ont aimé, vous aimerez peut-être, ou sur Amazon, par exemple, où vous allez sélectionner un titre et avoir en dessous d'autres amis ont acheté. Ce qui, lorsqu'il y a très peu de clics sur un livre, peut vous donner des associations assez drôles, quand même. Donc, tout ça pour en venir au fait que la critique, aussi ingrate soit-elle, ne va pas nécessairement diriger ou à tout le moins conseiller, elle va juger. Ce qui est un peu malheureux, parce que ça enlève, je crois, à plusieurs textes, peu importe la maison d'édition, peu importe l'auteur, des textes qui pourraient trouver leur public, mais ils ont été pas mal lus, mais ils ont été mal dirigés, mal aiguillés, peut-être pas vers le bon public. Et c'est malheureux parce que vous assistez présentement, tout le monde vous le savez, à une espèce de réduction, un peu comme une peau de chagrin du tissu médiatique. Ce qui fait que présentement, on se tourne de plus en plus vers les blogs, vers Salon Double, c'est intéressant parce que ça devient un lieu de discussion. qui est en dehors des sphères d'un magazine ou d'un journal qui va vous dire si t'achètes de la pub, on parle de tes livres, ce qui est un malheureusement quelque chose de bien réel. Il faut financer ces journaux-là. Alors, l'espace de dialogue qui est nécessaire à la vitalité de la littérature, encore une fois, avec un grand L, j'utilise des grands mots, là, mais n'empêche que il est en train de se réduire. Et donc, du côté de l'éditeur, il faut se poser des questions. Et c'est comme ça que, quand je disais qu'il faut éliminer les distances, entre le lecteur et l'éditeur, là, ça devient primordial. Il faut être clair dans votre projet, il faut, pour éviter peut-être les déceptions, pour maintenir cette fidélité qui est à peu près la plus belle publicité que vous pouvez avoir, c'est cette curiosité que les lecteurs ont et qui, dans le cas d'Alto, par exemple, moi, je demande des lecteurs curieux. Certaines personnes seraient peut-être pas attirées par, je fais l'exemple de Sous-Béton, où vous êtes dans un 7000e étage d'un immeuble où en dehors n'existe que la mort et des cadavres qui s'entre-déchirent et tout, et bon, c'est assez cataclysmique comme roman, mais dans sa structure, dans son souffle, c'est un roman qui est très cohérent, mais qui a dégoûté énormément de gens. Alors, c'est sûr que quelqu'un va lire Marina Levitska, je dirais pas, ben essayez Sous-Béton. Vous allez voir, vous allez manger probablement un mur de béton. Mais c'est l'idée qu'il y a une cohérence et il y a un tissu, un réseau de sens qui s'est installé, mine de rien, dans le catalogue au fil des ans. Donc, lorsque je choisis un texte, je le regarde dans le catalogue comme une chose organique et dire, est-ce que ça peut se compléter par... est-ce que ça peut se greffer à cette espèce d'organisme vivant, parce qu'il est vivant, parce qu'il continue à vivre, qu'il soit sur les tablettes des nouveautés ou dans les tablettes des librairies usagées, par exemple, ça continue à vivre, tout ça. Donc, ça continue à par une espèce de drôle de chimie ou de biologie un peu étrange, ça continue à redéfinir à chaque instant la maison d'édition. Donc, vous avez là une relation très importante à établir entre le lecteur et l'éditeur. Entre l'auteur et le lecteur, bien entendu, parce que vous êtes un passeur. Parce qu'il faut aussi trouver le moyen, que ce soit dans des assemblées de 3 personnes, ce qui est habituellement la moyenne lorsque vous faites une lecture en librairie, ou dans un salon du livre, qui est à peu près la moyenne de 3 personnes qui viennent vous voir parce que vous faites pitié, puis vous signez toute seule à votre table. Ce sont des réalités. Je fais des blagues avec, mais c'est une réalité très dure et très vraie pourtant. Lorsque les salons du livre, qui sont des foires commerciales, qui sont nécessaires, vous donnez comme ça en pâture des auteurs. Par exemple, Nikolski, petite anecdote, Nicolas est installé, c'est sa première séance de signature de son premier salon de Québec, et il y a une dame qui regarde son livre, elle dit « ça a l'air d'un livre de pêche ». Et Nicolas lui répond du tac au tac, « mais c'est un livre de pêche, madame ». Elle dit « ah, j'aime pas la pêche ». Et voilà, une vente de moins. Mais bon, on s'est rattrapé après. Mais c'était l'idée que c'était une manière de blaguer un peu avec les gens qui... parce que ça, je souhaite que tout le monde publie ici, mais si ça vous arrive un jour, quelqu'un qui lit la 4e de couverture devant vous, c'est une drôle d'expérience. Il vous regarde, lève un peu les yeux. Il sait pas trop. C'est vraiment une drôle d'expérience. Et moi, pendant ce temps-là, je suis en arrière, puis je regarde la réaction. Mais je me nourris de ça parce que j'essaie de trouver des ponts pour que l'auteur se sente lu et que chaque lecture, et c'est peut-être un vœu pieux, mais je m'y accroche tous les matins quand je mets ma cravate pour avoir l'air sérieux, je me dis que chaque lecture et chaque personne, vraiment une par une, forme une forme de récompense. Que vous vendiez 187 copies ou 25 000, la portée, la réussite ou à tout le moins la valeur, qui est un très grand terme d'une œuvre littéraire, ne se quantifie pas par le nombre de copies vendues. Première leçon d'édition, sinon vous allez finir avec une corde autour du cou et ça sera pas très très long. Parce que c'est vraiment la première leçon, vous écartez ça. Et au grand jamais, pourtant je divulgue très aisément les chiffres de vente, les vrais chiffres de vente, ne jamais juger un texte qui vend 450 copies avec celui à côté qui en a vendu 6000. À mes yeux, puis c'est comme ça que je réussis à poursuivre mon travail, ils participent de façon différente à l'économie d'une maison d'édition. Je vous cacherai pas que lorsque un livre participe de façon différente à l'économie d'une maison d'édition, il y a une certaine forme de bibliodiversité ou d'écosystème qui s'installe à l'intérieur d'une maison où les grands nourrissent les petits. C'est tout à fait normal, il faut s'y plier. C'est parfois un peu difficile, ça vous amène bien personnellement, parce qu'oubliez jamais qu'il y a un lecteur derrière chaque éditeur ou éditrice, qui a choisi ce texte-là et qui, malgré tout ce qu'il vous dit, a plus d'amour ou peut-être une relation un petit peu plus particulière avec un texte ou l'autre. Mais vous acceptez que un titre que j'appelle les gros porteurs va vous amener à vous offrir le plaisir de pousser un peu les limites de la maison d'édition. Et donc vous offrir le loisir et le luxe, parce que c'est un joli luxe, de faire des livres qui atteindront pas peut-être le 1000 copies, mais qui vont définir votre boîte de belle façon. Je vous donne un exemple. En exclusivité. Attention. Je l'ai reçu aujourd'hui. Ça, c'est l'encyclopédie du monde visible. Concept, d'ailleurs, le mot visible est invisible. C'est fou, ça. Tout est dans les détails. Ce livre-là est à mes yeux, bien sincèrement, c'est pas parce que je l'ai publié, un des livres les plus brillants qui a été publié au Canada dans les dernières années. C'est un livre qui a été publié en 1998, qui est prix littéraire du gouverneur général, qui a eu donc une belle reconnaissance, mais une reconnaissance surtout dans les milieux universitaires et où les gens voyaient là un alliage quand même assez novateur de fiction, d'essais, de une espèce d'amalgame pourtant très homogène, de beaucoup d'influences. Et d'ailleurs, une citation de Booklist, c'était que Chamberlain, parce qu'elle s'appelle Diane Chamberlain, pourrait fonder donc un courant littéraire autour du roman inventif et spirituel. C'était ça, spirituel dans le sens de drôle, on s'entend, là. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Mais, et c'est le texte qui, lorsque je l'ai présenté à Dominique Fortier, qui est donc la traductrice de ce texte-là, on s'est regardé, on s'est dit « ça vendra pas ». Elle dit « non, ça vendra pas, non, ça vend pas, ça vendra pas, on le fait ». Ça a été clair dès le départ qu'il fallait donner à ce texte-là une seconde chance en français. Maintenant, là où l'éditeur entre en jeu, j'ai contacté Diane Chamberlain et, si vous remarquez, bon, déjà, en termes de fabrication, on se fait plaisir. On a fait une maquette maison où on déroule tout le livre en lui-même. Je voulais créer un bel objet parce que créer un bel objet participe aussi à la vie du livre et à la définition du livre. On pense que le livre est une œuvre fermée. Pas du tout. Elle est tout ce qu'il y a de plus ouverte. Et il y a à l'intérieur du texte, grosso modo, je dis à peu près 150 illustrations. Donc, qui... Vous voyez ici, par exemple, petite pièce avec horloge. Vous avez aussi... Je vais vous présenter comme ça ici. Vous avez aussi un texte qui, par exemple, se poursuit dans les notes en bas de page. Donc, formant deux trames narratives parallèles. Et vous avez, par exemple, un texte qui s'appelle, lui, c'est, je me souviens, « Les spacieuses chambres du cœur », donc, où vous avez une volonté d'associer toujours, et il y a un langage vraiment qui s'installe, il y a tout un autre système qui est à l'œuvre dans ce texte-là, entre les images et le texte, et parfois, c'est les images qui apportent ce que le texte n'apporte pas. Donc, tout un dialogue, une espèce de dynamisme, une vie qui bouillonne dans ce texte-là, qui m'a fasciné. Donc, comme ça, souvent, c'est les collages de l'auteur elle-même. Vous avez parfois du décalage, parfois vous avez quelque chose qui complète le texte. Donc, vous avez, il y a toute une redéfinition de la relation entre le texte et l'image, moi qui me fascinait. Mais en plus, c'est bien écrit, c'est drôle. Alors, je trouvais que s'il y avait là un livre complet, j'ai décidé de le faire en bicro. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire toutes les illustrations en bleu, puis le texte en noir. Donc ça m'a permis de faire quelques petites fantaisies où, ça et là, on mettait des éléments clés en bleu. Donc, on créait une espèce de nouvelles lectures du texte, parce qu'il fallait trouver où est-ce qu'on a mis du bleu, et c'était un hommage non voulu à ce... Il y a des gens peut-être qui vont connaître ce texte-là, que tout le monde, je considère, doit avoir lu, qui s'appelle « La maison des feuilles », de Marc Z. Danielewski, qui a été publié il y a presque une dizaine d'années maintenant. Texte somptueux, qui est en soi une expérience physique de lecture. J'ai jamais eu, et vous me couperez au montage, autant la chienne en lisant un livre. C'est fascinant. L'histoire est simple, petit aparté. Vous avez un homme qui décide de faire mesurer sa maison, là je résume très rapidement, et qui se rend compte que les dimensions intérieures de la maison ne sont pas les dimensions extérieures. Donc la maison est plus grande à l'intérieur. Puis c'est pas beaucoup si je me souviens bien, c'est quelque chose de très très petit. Et à un moment donné, si je me souviens bien même, il ouvre une porte où c'est un escalier qui continue comme ça à descendre pendant des kilomètres. Et à un moment donné, il y a même quelqu'un qui respire dans le dos. C'est le noir total, il continue à descendre les escaliers. Il y a quelqu'un comme ça qui respire. C'est la pure terreur, parce que le texte même, à un moment donné, vous avez des trous dans le texte, vous avez des mots sur une page après ça. Et là, physiquement, vous tournez les pages. Donc, Danielewski, dans une œuvre très conceptuelle, a quand même réussi à vous faire sentir quelque chose de physique. Combien de livres sont capables de vous faire sentir ça? Il y en a très peu. Bon, bien entendu, c'est devenu un livre un peu à la mode, et à partir d'un moment, il a été cité, puis tout le monde a essayé de faire sa petite maison des feuilles. Mais n'empêche que ce texte-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait la typo qui était bleue à l'intérieur, et elle est porteuse de sens aussi. Parfois, vous avez des notes de votre page, d'ailleurs, si je me souviens bien, qui commencent 21 pages plus tard que vous devez lire à l'envers. Donc, c'est, tu sais, à la fin d'une note de bas de page qui fait sens avec le texte, parce qu'il y a plusieurs niveaux du texte, et là, vous reculez. Donc, vous voyagez. Donc là, vous avez toute une expérience qui dépasse le cadre strict du livre. Et ça, ce livre-là m'a fasciné. Oui, il était un peu prétentieux, mais il m'a fasciné par son courage et par son audace. Et ça, je me suis dit, une littérature est vivante quand il y a des gens qui font ce type de texte-là. dans une moindre mesure,
bien moindre,
c'était ce que je retrouvais dans ce livre-là. Maintenant, je vais vous faire passer, c'est pour vous dire le choix du papier, le choix de la couleur, le choix de reprendre les illustrations plus grandes qu'elles étaient dans l'édition originale, le positionnement des images qui parfois faisait écho à un paragraphe, mais dans la version française, parce que c'est un petit peu plus long, il fallait changer tout ça a été vu avec l'auteur. Donc là, l'éditeur se contentait pas de prendre un texte et de publier. Là, j'ai téléphoné Diane, j'ai dit, écoute, on refait ton livre. On repart dans une nouvelle strate, un nouveau public, une nouvelle édition, un nouvel éditeur. Il connu ni d'Ève ni d'Adam, on s'entend. 1998, autant dire que c'est l'archéologie littéraire. C'est un texte considéré, je suis désolé de le dire, mais c'est un texte qui est vieux. Et ça, c'est pour moi, je trouvais ça très injuste parce que... un texte n'arrête pas de vivre dans la mesure où il se retrouve ici ou s'il a été publié en 1783. Le texte vit, c'est l'air naïf, puis je m'adresse à des gens qui sont à l'université, pour vous c'est évident. Mais pour le monsieur, madame, tout le monde qui va en librairie et à qui vous essayez d'expliquer que ça a été publié en 98 et ça a eu beaucoup de succès, la petite moue de « Ah, c'est pas une nouveauté ». Oui, c'est une nouveauté, c'est la première fois que c'est publié. Ah, c'est une réédition d'abord. Non, c'est pas une réédition, c'est la première fois. Pourquoi ça n'a pas été publié à l'époque? Je dis, oui, ça a été publié à l'époque, mais ça n'a pas été traduit. Ah, mais pourquoi vous l'avez pas traduit à l'époque? C'est parce qu'à l'époque, j'existais pas. Ça lui est arrivé, ce type de choses-là. Donc, et c'est d'ailleurs la volonté de... Ça m'est arrivé, cette discussion-là, avec Margaret Lawrence, qui est peut-être la Canadienne la plus invendable que vous pouvez imaginer. Elle est morte depuis 25 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un auteur mort depuis 25 ans, qui en plus, ça m'a vraiment coupé au montage, est laide comme un pou, et qui a la réputation d'être vraiment acariable, mais vieille bitch, et je cite sa fille en passant, qui est vraiment charmante, et elle a pourtant marqué toute une génération d'écrivaines, et c'était pendant un temps l'écrivaine canadienne la plus importante au monde. Oubliez Margaret Atwood. D'ailleurs, Margaret Atwood était en quelque sorte parrainée par Margaret Lawrence à l'époque. On parle de quelqu'un qui est mort, qui s'est suicidé en 1987, et qui à l'époque d'ailleurs, au tabou, on savait pas qu'elle s'était suicidée, on l'a su bien des années plus tard, et c'est quelqu'un qui a posé les bases du féminisme en littérature canadienne. Ceux et celles qui ont vu le bye-bye vont sourire lorsqu'on fait les portraits des Canadiennes aujourd'hui, surtout sous Harper, ça va être coupé encore si vous voulez encore avoir des subventions, mais c'est l'idée que vous avez là quelqu'un qui a redéfini le roman et qui a vraiment posé les bases d'une littérature canadienne à venir, et on est en 1960. 6, lorsque L'Ange de Pierre est publié. Eh bien, en 2007 ou 8, 7, 7, je crois, j'ai publié L'Ange de Pierre, qui est à peu près l'équivalent du Bonheur d'occasion de Gabriel Roy, c'est-à-dire lecture plate que tu dois lire pour l'école. Et c'est vrai, lorsque je vais à Toronto, j'ai publié Margaret Lawrence, vous devriez voir les visages, mais tu publies c'est quoi l'idée de publier ce texte-là? Ça a été la preuve, parce que ça a été un gros best-seller, ça a été la preuve qu'un texte peut vivre. Et ça, j'étais très content de ça, parce que j'ai revampé les couvertures, je les ai refait aussi en édition cartonnée. Donc, c'était un pied de nez un peu à cette volonté de toujours dire qu'on doit faire de la nouveauté et tout ça. Donc, tout ça nous ramène à cette idée, toujours dans ce binôme, si on veut, lecteur-éditeur, qui est parfois malheureusement trop négligé, eh bien, ça nous ramène à ça, cette volonté de créer des ponts et de tisser des liens. Et finalement, puis on peut revenir comme ça dans les différents pôles, le média et l'éditeur. Là, c'est un petit peu plus court, c'est-à-dire que vous devez, et c'est très cruel, vous devez un peu mâcher le travail pour le média, parce que vous devez le caser avant même qu'il soit casé. C'est-à-dire que le journaliste doit, mais ça parle de quoi? Puis, et là, excusez-moi le terme anglais, vous avez un pitch qui doit durer quelques secondes, parce que le chef de pupitre de la presse, il reçoit à peu près 48 appels en 2 heures pour se faire dire que tous les livres que X ou Y publie, c'est le meilleur et mériterait un espace dans la presse. Il y a une sollicitation énorme qui fait que vous êtes obligé de vous contraindre, mais en fait, de vous plier à un exercice excessivement ingrat, et penser aux auteurs, de résumer un livre en 15 secondes ou en 20 secondes, ou à tout le moins par un communiqué, ou par une forme de présentation. Dans mon cas, vous voyez, celui qui a fonctionné à un moment donné, était très intéressant. C'est le cas de David Mitchell. Ça, c'est l'objet qu'il a fait. J'aurais fait David Mitchell sous cette mouture-là, qui est donc ma collection régulière, et je n'aurais pas eu le quart des ventes. Le livre, parce que ça, c'est de la conception maison, on se fait plaisir, on dit on fait de l'estampage, on fait signer ici, tout ça. Là, j'ai dit, je vais lui créer un véhicule qui va faire qu'on va le remarquer. Et les journalistes, tout de suite, l'ont pris. Dès que je l'ai mis dans les enveloppes, je me suis appelé, je vais voir, c'est quoi ton livre? parce que l'objet l'avait fait. Et ça, les nouveaux éditeurs, puis c'est vraiment pas juste Alto, l'ont compris parce que d'un point de vue de la production graphique, il y a une volonté de changer, de casser des moules et d'explorer un peu les choses. Et ça, vous le remarquez pas mal, et c'est un bienfait parce qu'on se rapproche, mine de rien, de l'école anglo-saxonne du design aux États-Unis ou en Angleterre, où vous avez des concepteurs de couverture extraordinaires qui font des choses culottées comme tout. Ils osent mettre le titre en 12 points alors qu'ici, ça a l'air qu'il faut le mettre en 24 ou t'es mort. Ça m'a appelé beaucoup, et on est en train de voir ça ici aujourd'hui. Donc, l'éditeur, c'est ça aussi. L'éditeur, c'est cette volonté de dire, voici ton propos, voici ton œuvre. Qu'est-ce que je peux faire pour créer une certaine forme de cohérence ou à tout le moins d'homogénéité entre le texte et le contenu du texte? Dans le cas de David Mitchell, je l'ai appelé, j'ai dit, je veux faire un texte, un livre, qui évoque l'époque, on est au 18e siècle, donc qui donne cette impression de vieux livre, tout ça, et je veux lui créer un écrin qui, je pense, va faire qu'on a cette impression d'avoir accès à un vieux livre. Maleficium de Martine Desjardins, c'est exactement la même chose. Son édition poche s'inspirait un peu des couvertures de un peu craquelées comme du cuir. Ben c'était ça. Avec les moyens aussi que j'ai. Je peux pas, si vous saviez les projets que je veux faire, je serais déjà en faillite. Mais je m'adapte et j'essaie de faire le livre le moins cher possible, comme celui-là était à 34,95. Mais aussi, quand je vous disais qu'il faut, avec le lecteur, l'auteur, et un exemple de choses qui a été faite, c'est de... Donc, il va donc réunir, si on veut, tous les acteurs, tous les niveaux, si on veut, entre donc le producteur jusqu'à la réception, jusqu'au lecteur. Ça a été fait sous la forme de petits textes tirage limité, 1000 chaque, et c'était donc 5 textes gratuits qui ont été faits par des auteurs d'Alto. Ça s'appelle « On a tous les jours 5 ans ». Et donc une collection de tirages limités et qui était offert à l'achat d'un livre d'Alto en librairie pour le 5e anniversaire. Mais je l'ai fait en PDF d'abord, en EPUB après, gratuit, donc sur le web si vous voulez. Mais si vous êtes un lecteur fidèle, et bien entendu je vais pas faire le coup comme des cartes de hockey, collectionnez-les tous, là, mais c'était l'idée de dire, ben voilà, choisissez où vous voulez aller. On avait donc Christine Eddy, Max Ferrandon, Nicolas Duguenard, Serge Lamotte et Martine Desjardins. Donc, ces textes-là ont été courus, et ça a été inspiré, je m'en cache pas, du « Pourquoi écrire » de Paul Auster il y a plusieurs années, où, lorsque vous achetiez deux Actes Sud, on avait droit à ce texte-là, qui est brillant, d'Auster, ou la même chose, d'ailleurs, toujours Auster, c'est Actes Sud aussi, « Le conte de Noël d'Ogie Ran », qui était un livre offert, donc un hors-commerce. Et ça, ce sont... j'ai rien inventé. Ce sont toutes des stratégies commerciales qui ont été pratiquées depuis longtemps. Donc, à partir d'un moment, je ne fais que recycler des choses. Et ça, c'est une partie très importante du rôle de l'éditeur, c'est-à-dire s'inspirer, recycler, copier de façon, on va dire, intelligente. Donc, à partir de ce moment-là, ça, c'est un exemple. Est-ce que j'ai fait du fric avec ça? Pas du tout. Est-ce que j'ai gagné des lecteurs, de la fidélité? Est-ce que les auteurs en ont entendu parler et, du coup, ont réussi à ouvrir une porte pour avoir d'autres lecteurs? Oui. Et ça, c'était leur rôle. Donc, est-ce que c'est de la pub? Peut-être. Est-ce que c'est de l'édition aussi? Donc, c'était ce que j'appelle la pub intelligente. Je parlais tout à l'heure avec René de l'histoire que j'ai... le petit truc que j'ai fait, j'en ai pas apporté. Mais j'ai fait des clés USB aussi. Ça a bien fait jaser le monde. Qui était en tant que telle une carte d'affaires avec... je vais le retourner. C'est chose que certaines personnes n'ont pas compris. Mais vous l'ouvrez et c'est une clé USB. Sur la clé, vous trouvez des EPUB. 3, 4, 5. Margaret Laurence au complet, certaines cartes, il y avait des sélections, 3 livres qui thématiquement se regroupaient, Griffintown, les Frères Sisters, et L'homme qui marchait sur la lune, qui est peut-être des 3, peut-être le plus fort, mais qui est celui qui a le moins vendu, mais c'est vraiment un livre très fort. Donc du coup, je permettais à ce livre-là, parce qu'il a 2 gros porteurs à côté de lui, de trouver un public qu'il aurait peut-être pas trouvé, par la clé USB. Et surtout, c'était là où c'est né autour d'un verre, beaucoup de choses naissent autour d'un verre, c'est Alto, entre autres. Donc, c'est de retrouver, ça je vous raconterai après, de retrouver cet esprit qui était que on cherchait un moyen, c'est quoi les supports qu'on peut utiliser. Et à un moment donné, je dis, ben, on va le mettre sur des clés USB. Et tout le monde de rire, comme ah, ça se fait. Putain, j'ai réfléchi à ça, je dis, pourquoi pas? C'est une façon de matérialiser le numérique. Ça fait beaucoup jaser, je peux vous le dire très sincèrement, c'est pas quelque chose qui, d'un point de vue commercial, a très très bien fonctionné. Parce que, là, vous arrivez en premier avec ce support-là, ce véhicule-là, et les gens comprennent pas trop pourquoi tout à coup vous avez matérialisé. Mais moi, l'idée, c'était tout simplement d'essayer, parce que c'est mon métier, souvent je dis, si je pouvais faire des livres en signaux de fumée ou en code morse, je le ferais. C'est l'idée d'offrir aux lecteurs d'aujourd'hui la possibilité de ne serait-ce que ça, offrir à quelqu'un, tiens, je t'ai acheté tout Margaret Lawrence, je pense que tu vas aimer ça. Et en plus, je les coupais de prix, c'est vraiment beaucoup moins cher que les acheter sur iTunes, par exemple. Et moi, je trouvais que c'était un geste intéressant, parce que sinon, vous l'avez peut-être déjà fait, offrir une carte cadeau à iTunes, c'est bien gentil, mais c'est un peu, je t'ai acheté un certificat cadeau. Et c'est le fun! Mais il y a une espèce de côté non personnalisé qui me faisait moins plaisir. Donc, je me dis, ben, pourquoi pas avoir cette espèce d'entre-deux, donc une clé USB. Ça a été très bien reçu, les médias s'en sont emparés, ce qui n'a pas nécessairement généré des ventes. Mais à tout le moins, c'était une lancée peut-être un peu vaine, mais à tout le moins peut-être à repenser, mais c'était une façon de dire, regardez, c'est mon métier de trouver des avenues. Donc, si vous regardez tout ça, et que vous faites une petite synthèse, est-ce qu'on a, et je reviens avec le titre, est-ce qu'on a besoin des fantômes? Je pense que oui, parce que toutes ces idées-là, toute cette façon de voir le texte, en tout cas chez Alto et chez plusieurs autres éditeurs que j'admire et que j'aime et que je lis, leur texte et non pas eux, c'est de, mais pas leur texte, là où on rentre dans des niveaux, c'est pas leur texte, ils ont publié les textes, donc c'est pas vraiment eux, mais bon, vous comprenez l'idée. Je regarde ce que mes distingués collègues et compétiteurs, que je déteste seulement quand ils font des best-sellers, je les lis et j'apprends beaucoup d'eux autres, tout comme j'apprends beaucoup des gens qui font des manuscrits avec moi, puis je me compte d'ailleurs tous les jours chanceux de pouvoir le faire. Donc, lorsque vous utilisez aussi, et ça c'est une chose que les éditeurs devraient faire, et que les auteurs devraient apprendre à mieux négocier, je suis désolé, c'est l'utilisation des médias sociaux. Il y a des gens dans la salle, je vois des gens qui l'utilisent très bien. Je t'envoie pas des fleurs pour ça. Mais c'est l'idée qu'il y a des gens qui vont l'utiliser pour dire, regardez, tel texte est disponible, vous avez vous pouvez feuilleter que ce soit sur le feuilleteur ou sur mon site, un site personnel. J'ai une nouvelle entrée de blog où je parle de mon roman qui est à venir. Tout ça, c'est des utilisations brillantes du média social. C'est-à-dire que vous faites entrer votre lecteur dans votre salon. Et ça, j'ai essayé de concevoir le compte Delto et le Twitter ou peu importe, ou Pinterest. Je suis un des seuls, je me souviens bien, à avoir un compte Pinterest parce que ça devient une façon... Brisez pas mon livre, quand même. Ça a l'air correct, ça va être un service de presse. Non, je sais même pas si c'est le mien qui est tombé. Donc, c'est l'idée de faire entrer le lecteur dans votre processus de création. Pinterest, pour moi, c'était ça. En quoi Pinterest est intéressant pour un éditeur? En rien. Mais j'ai mis là-dedans des images de couverture qui ont jamais eu lieu, finalement. Des tentatives, des photos du bureau, des choses comme ça. C'est très agréable de le faire. Et ça crée, là, une connexion. Alors, beaucoup d'éditeurs, effectivement, devraient repenser un peu cette stratégie-là. Maintenant, la mauvaise stratégie sociale, qui peut parfois nuire à l'éditeur, c'est celle de dire à tous les deux jours que tu as sorti un livre. C'est un peu fatigant, dans la mesure où ça sent un peu... Vous avez l'air désespéré, un brin. Et si c'est votre ami... Et que c'est un ami, un vrai, là, pas quelqu'un que tu poques toutes les deux semaines, là. Qui t'envoie Farmville ou d'autres cochonneries de Facebook. Vous avez un réel ami, il y a des bonnes chances qu'il achète votre livre de toute façon. Si vous lui avez montré la voie vers un extrait ou vers votre processus de création, parfait, ça me va, il n'y a pas de problème. Mais il y a sur Facebook peut-être une insistance. Et règle non écrite, on critique pas les autres écrivains sur Facebook parce que ça va tout se retrouver sur la sphère publique. Ce qui a créé maintenant, d'ailleurs assez récemment, une espèce de netiquette, si on veut, qui doit s'installer à un moment donné, où vous avez des gens qui vont chercher à se faire de la publicité. Tout ça. Donc c'est un jeu assez dangereux, le média social, du point de vue de l'édition. Ce qui fait que d'ailleurs le compte Delto que j'anime, c'est moi qui est derrière, j'essaie de plus en plus... de me fermer la trappe sur « j'ai eu une critique sur tel livre », ce qui est en soi de la publicité déguisée, pour amener des textes sur le livre numérique. Par exemple, récemment, sur Twitter, il y a un texte que j'avais mis sur « est-ce qu'on panique sur le livre numérique? Est-ce que c'est la fin du livre? » Ce genre de texte-là, je me rends compte, est retweeté et discuté. C'est bien, c'est pas de la pub pour Alto, c'est une façon d'entamer un dialogue avec la personne qui peut t'écrire, après ça, dire « écoute, je suis pas d'accord avec ce que t'as publié ou n'importe quoi ». Alors là, on vient s'installer dans un salon double. Et donc, vous avez là quelque chose qui est précieux, je pense, surtout aujourd'hui. Et ça, malheureusement, c'est encore peu exploité. Qu'est-ce que ça va donner dans 2 ans? C'est intéressant. Est-ce que Facebook va encore nous emmerder autant que dans le présent? Est-ce que Twitter va être plus intéressant? Est-ce que la twitterature, c'est bien le terme, si je me souviens bien, est une littérature? Je ne discute pas d'étiquette. Mais n'empêche, est-ce qu'on peut, par exemple, lançons des idées comme ça tout de go, est-ce qu'on peut, par exemple, tweeter un texte au complet avant de le publier? Donc là, vous avez offert gratuitement, au sacrilège, la possibilité au lecteur de le découvrir avant tout le monde parce que vous êtes abonné Twitter. Vous donnez là un avantage de vous suivre. Est-ce qu'on peut imaginer, moi je suis un fan des feuilletons, Et je veux, puis je vais le faire un jour, je vous le jure, feuilletonner, excusez-moi le néologisme, un roman avant même sa publication. Par contre, le commercial, il fait, oh, oh. Vous avez comme l'ange là, qui dit oui, 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 et le diable commercial qui dit non, 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 tu vas perdre des copies. Vous arrêtez votre publication, pas vous arrêtez votre publication, mais bien vous publiez le livre papier ou numérique avant la fin du feuilleton, offrant du coup à la personne qui a déjà lu la moitié ou le trois quarts du texte la possibilité de l'acheter. Si la personne s'est rendue jusqu'à la moitié ou trois quarts du texte, c'est qu'il vous aime, c'est qu'à partir de ce moment, il est prêt à l'acheter. Il a déjà fait tout ce chemin-là. Donc, est-ce que ça va nuire à la vente d'un livre que de l'offrir en feuilleton via une plateforme web X pour éventuellement l'offrir en papier? Je pense que non. Est-ce que ça veut dire... Mais le problème, c'est que c'est toutes ces initiatives-là, on le saura, on n'aura jamais la réponse. Par contre, ça, c'est pas fait. Ou très peu. On le voit très, très peu. Par contre, c'est tous des outils qui sont utilisés par la musique, qui sont utilisés par d'autres formes d'art, qui sont pourtant, dans un milieu dit plus traditionnaliste comme celui de l'édition, boudés. Et c'est malheureux parce que je pense qu'on pourrait apprendre énormément. Puis en plus, ça vous connecte avec le besoin du lecteur qui est habitué de faire clic-clic, je veux tel album. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'ai entendu deux tonnes. Je veux aller le downloader sur X média machin. Et je lis en quelques secondes. C'est malheureux, mais c'est un cas. Est-ce que c'est un respect du droit d'auteur? Non. Est-ce que c'est une façon de faire de la promotion? Peut-être. Et là, lorsque vous lancez un livre numérique, je pratique, par exemple, je porte pas de DRM, je vous le dis tout de suite, je suis DRM free, et je décidais dès le départ de l'être, parce que je fais confiance au monde. Et le seul livre qui a été piraté à ce jour, c'est Griffintown de Marie-Hélène Poitras. Donc, ça a été sur un site qui s'appelle ebookgratuit.com, j'ai écrit au Westre, et j'ai dit, écoute, retire, s'il te plaît, Griffintown du serveur, il a enlevé les liens, c'était un zip, machin, je sais pas quoi, il y avait 6 URL où on pouvait retrouver le ça a été effacé du forum, mais les URL existaient toujours, on pouvait peut-être les googler, mais c'était déjà plus difficile, et c'était le seul livre piraté sur 40 quelques disponibles. Je considère que c'est des dommages collatéraux normaux, donc... peut-être moins pire que de dire « Ah, ben pour lire un livre d'Alto, il faut que vous téléchargiez Adobe Digital Edition, qui est comme la pire, à peu près la pire chose en ville, ou Blue Fire, ou peu importe le lecteur que vous utilisez, ce qui contraint votre lecteur. » Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça m'a amené à quelques conflits avec les auteurs. C'est un fait, parce qu'il est normal de vouloir sentir son œuvre protégée. Tout ça sont des enjeux que j'ouvre pour terminer tout ça vers... Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Qu'est-ce qui fait que maintenant on est en train de revoir ce besoin donc d'un éditeur? C'est d'ouvrir ce dialogue-là. Parce que lorsque vous regardez les ventes déclinées, lorsque vous regardez les librairies, il y en a 3 ici à Québec, pardon, 2, j'ai failli faire un petit peu de pronostic là ici, qui ont fermé dans les derniers mois, et qu'il y en a une, je peux vous le dire, c'est la bouquinerie de la rue Cartier, qui est sur le bord de la faillite depuis plusieurs semaines. Ça, c'est triste. Ça, c'est une perte énorme pour la physicalité des livres. Il y a encore des places comme ici qui sont là, qui existent et qui font vivre le livre. Perdre une librairie, ça envoie un très, 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 très mauvais message. Pourtant, c'est la liberté. C'est pas la liberté, par contre. C'est drôle de dire le mot liberté dans la ville de Québec, là. C'est l'idée que vous avez des pôles comme ça de diffusion et de vie du livre qui s'en vont, et ça au fil des mois. Pendant ce temps-là, vous avez des Renaud Bré qui s'installent. Puis j'ai rien contre Renaud Bré. Moi, c'est le fait d'être enregistré qui me stresse. Mais c'est parce que vous savez, Renaud Bré, don't fuck with Renaud Bré, ok? Donc, c'est, j'ai pas dit non, hein. C'est pas si fait, hein. Il s'appelle Renaud. Donc, Bré. Donc, tout ça pour dire que, non, je fais des blagues. Mais, ils sont installés à côté d'une librairie à Beauport. Ils ont dit, regardez, on s'installe. T'as le choix. Soit tu fermes ou je m'installe. Qu'est-ce que tu choisis? Bon, ben voilà, ils sont installés et l'autre, c'est installé, a donc racheté Raffin à Place Fleur-de-Lys. Et ça s'est allé comme ça. Mais c'est une librairie, ça va au-delà de ses murs. Et ça, c'est le contexte actuel dans lequel l'éditeur doit être sensible à ça. Donc, est-ce qu'on va assister, je vous donne peut-être quelques traces du futur, à l'investissement des éditeurs dans des points physiques pour créer des librairies? Peut-être. Peut-être qu'il va falloir que la chaîne, par solidarité, se referme. Et que les auteurs deviennent à ce moment-là partenaires, deviennent participants dans la chaîne du livre. Donc, on élimine les frontières qui ont été créées au fil des ans, c'est-à-dire, tu me remets ton texte, je te rappelle dans 3 semaines avec ta couverture, ou des histoires d'horreur, comme j'ai entendu quand j'étais journaliste, que quelqu'un reçoit son livre publié avec la couverture, 4e de couverture, communiqué, merci, bye, il sort la semaine prochaine. Ça arrive très souvent. Je veux dire, c'est quelque chose, pour moi, c'est inconcevable que l'auteur voit sa couverture au moment où il ouvre ses boîtes. C'est avoir été absent et étranger à tout le processus. Ça, pour moi, ça se fait pas. Pourtant, ça se pratique encore, mais je le juge pas. Et donc, éventuellement, lorsqu'on s'installe, et c'est peut-être la dernière ouverture là-dessus, lorsque vous revoyez le besoin que cette nécessité du travail et de la création, donc vous devenez, dans une certaine mesure, un peu une hormone de création, une espèce d'utérus à chef-d'œuvre, si on veut, cette espèce de lieu de gestation commun, vous ouvrez beaucoup de portes. Et là, l'auteur peut vous avoir une idée de promotion qu'il y a, dire « je veux faire un trailer sur YouTube », ce qui est habituellement une très mauvaise idée. Si vous avez regardé les trailers sur YouTube, c'est difficile. Chacun son métier. Vous n'êtes pas cinéaste. J'en ai fait un. Puis c'était même pas moi qui l'avais fait. C'était un éditeur britannique. Puis ça allait. Puis je vous dis que ça n'a pas eu une incidence énorme. Par contre, c'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi qu'il faut pas essayer de le faire encore. Donc, toutes ces avenues-là. Je vous donne un exemple. Ça ici. Ça a été le tout premier objet promotionnel des éditions Alto. Ça a été lancé au Sacrilège, ici à côté, au mois de février, soit le 11 février 2005. Et Nicolas et moi, on a décidé qu'on faisait des chapbooks. Comme les anglo-saxons, ils en font plein. Puis moi, je trouve ça génial, les chapbooks. C'est un livre en soi. Et on a dit, on fait des chapbooks, mais on les a montés dans Quark, on les a pliés nous-mêmes. Et on est allé aux copies de la capitale en bas, on a tout tranché ça. Et on a fait 4 couvertures différentes de Nikoski. C'est en soi le premier chapitre de Nikoski. Il m'en reste 3, j'ai perdu le 4e. Et c'était tout croche, comme vous pouvez voir, c'est vraiment tout croche. Mais c'était ça, et ça, le principe du chapbook, c'était qu'on le laissait sur des tables. Pour, comme ça, faire une espèce de publicité sauvage, où vous avez quelqu'un qui sait quoi, ce qui traîne, oh, jette-le aux poubelles. Donc, plusieurs, en fait, il en reste plus beaucoup. Hein. Donc, c'est l'idée de... Et là, il y avait des numéros aussi, puis on avait marqué, faites, ça, c'est très exactement, le 7 février 2005, on avait marqué, faites circuler. Et j'en ai retrouvé à un moment donné. J'en ai même retrouvé un en vente dans une librairie usagée. C'était la victoire la plus géniale. J'ai dit, waouh! Et c'est d'ailleurs ceux-là, ces livres-là, qui étaient gratuits, je les ai retrouvés, notamment au port de tête, à 5 $. Je me suis dit, c'est le fun. Ils valaient 0, ils valent 5. Alors, tu sais, un livre qui prend de la valeur, c'est extraordinaire. Ça, j'ai trouvé ça génial, parce que c'est ça, la vraie vie d'un livre. Il voyage, il retrouve du monde. Et ça, ben, ça a été un exemple. Donc, c'est devenu ça. Après ça, je suis devenu un peu plus sérieux. Et ceux-là, ils sont droits, hein, quand même. Donc, au moins, on a appris à faire des livres correctement. Tout ça pour vous dire, d'ailleurs, ils sont signés aussi, tout ça pour vous dire que toutes ces choses-là font qu'on est à peine au début, en tout cas, moi, je considère chez Alto, je suis à peine au début d'une nouvelle façon de voir le texte, et à chaque matin, je me lève, oui, je suis découragé des ventes, parce que les ventes sont, présentement, c'est très difficile. Plusieurs éditeurs sont sur le bord de la faillite, je vous le cacherai pas. Est-ce qu'on publie trop? Est-ce qu'il y a pas assez de lecteurs? Tout ça sont des choses qui se discutent en dehors de ce contexte-ci. Par contre, c'est une réalité qui fait que, au lieu de paniquer puis de dire je ferme boutique puis je publie plus, il y a quand même, et c'est ça qui est fascinant, il y a quand même des auteurs qui sont derrière et qui continuent à écrire et qui continuent à repenser. Donc, la responsabilité de l'éditeur, et elle est sans cesse renouvelée, c'est de s'installer et de dire oui, j'accueille ton texte et ensemble, on va essayer de trouver une façon de trouver des lecteurs. Que ce soit 42 ou 372 000, le processus est le même. Il ne vous appartient pas de choisir s'il y en a 372 000 ou 42. L'idée est d'essayer, lorsqu'il est sorti et lorsqu'il vit de sa propre vie, donc lorsqu'il existe en bouquin, à partir de ce moment-là, vous avez plus ou moins, vous apprenez, vous avez fait des erreurs quand même, puis à ce moment-là, vous avez eu une œuvre vivante qui, là, entame sa vraie vie. Mais ça vous appartient plus. Et de là, ben, vous faites des salons, vous êtes un peu découragé, puis vous faites de la promo, puis tout ça, mais vous avez quand même signé une œuvre. En partenariat, vous avez été dans une espèce de lit double pendant un certain temps, plus ou moins intrusif dans le processus de création, vous avez coupé des pages, ou éventuellement... Et là, c'est pour ça que ça a ouvert une autre porte, c'est qu'avec tout le numérique et tout ça, ben, peut-être qu'on peut repenser la durée de vie des bouquins. On peut donc, le numérique, le hip-hop, je pense, est un format, y voir le hip-hop 3 éventuellement, c'est un format intéressant. C'est un format qui va permettre aussi, d'ailleurs, d'inclure beaucoup plus de choses. Moi, j'attends juste le Hip-Hop 3 pour pouvoir faire des textes qui vont avoir beaucoup plus d'interactivité, beaucoup plus de, excusez-moi le terme, de B-side. Sauf que, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de la cochonnerie. S'il y a des chapitres qui ont été coupés, mettez-les pas dans la version B-side, parce que c'est peut-être pas intéressant. Mais n'empêche qu'il y a cette volonté peut-être de voir, et je travaille sur un livre qui est assez oulipien pour les 10 ans, où vous allez refaire le livre que vous voulez, ce qui est un peu un hommage au livre quand j'étais tout petit, qui était les livres dont vous êtes le héros. Cette idée d'interactivité avec le lecteur, moi, me stimule maintenant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux considérer que oui, si des gens ont besoin d'Alto ou d'un éditeur, peu importe qui vous choisissez, à partir de ce moment-là, tant mieux, ça sert à quelque chose parce qu'il y a, ça va au-delà de la publication. Il y a quelque chose du terrain un petit peu dans ce processus-là qui fait qu'aujourd'hui, ben, moi je considère qu'il n'y a jamais eu autant de bons textes, il n'y a jamais eu autant de vitalité en littérature québécoise. Il n'y a peut-être pas de la presse, il n'y a peut-être pas des ventes, il n'y a peut-être pas autant de librairies qu'on voudrait, mais n'empêche que dans le noyau dur, lui, il n'a jamais été changé. Fait que ça me fait dire qu'on fait qu'on vit de très belles années. Je veux dire, le noyau, même d'où émane tout ça, lui, il est pas altéré. Puis c'est ce qui fait que la vitalité, si on veut, d'une culture et d'une littérature québécoise. Je termine là-dessus, parce que j'ai fait le tour. J'ai dépensé un peu de temps, mais beaucoup. Mais ça fait pas mal le tour, je pense, de ce merveilleux métier qu'est l'édition. Je vous laisse la parole. Donc, si vous avez des questions, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'édition sans jamais avoir osé nous demander. Donc, ce que vous voulez, c'est n'importe quoi. Il y a eu plusieurs sujets, hein, fait que, voilà.
Je commencerai, en fait.
Ah, oui, vous avez
comment, en fait, les éditeurs plus... les dinosaures, comme vous appelez...
C'est pas un terme péjoratif, mais...
Non, ah, d'accord. Ouais.
En tout cas, je le vois pas.
Mais
je vois
accueille, pas accueille les nouveaux, en fait, sur qui ont... qui cherchent plus justement à s'adapter puis qui ont peut-être une créativité plus développée.
La question est pertinente aujourd'hui parce que remarquez les prix récemment, remarquez l'accueil qui est accordé aux titres qui sont publiés par des jeunes maisons d'édition, il y a un certain favoritisme. Ce que j'appelle l'effet de la saveur du mois. On est dans ce type de société-là présentement, donc les éditeurs ont bénéficié de ça. Peut-être à tort, ce qui a choqué certains plus grands éditeurs qui disent « Écoute, moi j'ai 75 ans de métier, j'ai tel auteur, et pourquoi tout à coup tu te ramasses toutes les nominations et tout ça, parce que tout à coup t'es à la mode. » Ça, c'est un effet pervers. Maintenant, normalement avec les années, parce que c'est quand même assez récent, il devrait avoir une certaine stabilisation. Maintenant, j'ai remarqué par contre que ça a réussi à fouetter l'éditeur, qui a été bon prince. Je pense que la plupart ont quand même se sont inspirés de ça. Et on a vu une certaine façon de revoir ces stratégies web. Plusieurs gros éditeurs l'ont fait. La façon de promouvoir, faire plus de vidéos, qui n'ont pas toutes été... initiés par des petits éditeurs. Mais qui au moins ont le mérite d'avoir brassé un peu la façon de concevoir la publication. Mais présentement, disons qu'un auteur ou au moins un lecteur, peu importe, est relativement bien servi parce que ça a aidé à redéfinir un peu chaque maison. Ta mère, c'est pas la Peuplade. Cartanier, c'est pas Alto. Même si on venait me voir en disant, ouais, mais écoute, Cartanier font des trucs pareils comme toi, comme le livre Encyclopédie du monde visible est un livre Cartanier. À la limite, ça pourrait être quelque chose de tout à fait dans l'esprit. Un Boréal est peut-être un petit peu plus traditionnel, le Méac peut-être aussi, mais c'est des éditeurs plus généralistes peut-être, mais qui ont derrière eux des gens, des directeurs littéraires qui sont parmi les meilleurs sur le marché présentement. Je veux dire, ne serait-ce que Jean Bernier chez Boréal est à mes yeux un directeur littéraire de légende. Quand j'ai parti à Alto, je m'en cache pas, j'étais journaliste, j'écoutais parler Jean Bernier de ses textes, mais si un jour je suis capable de parler d'un roman comme ça, j'aurais réussi quelque chose. Donc oui, il y a une espèce de forme de retour et d'hommage, et la plupart des éditeurs plus jeunes vont vous dire que ça n'a pas été fait dans un but de confrontation, mais vraiment plus de complémentarité à justement ce que je disais, la pédagogie des craques du plancher. Moi, je suis arrivé avec une proposition éditoriale qui n'était pas celle des autres. C'est sûr qu'à un moment donné, les craques du plancher finissent par disparaître là. Mais je pense qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, là, récemment, là, dans les 5 dernières années, il y a assez d'éditeurs pour couvrir largement la proposition qui origine soit des cours de création littéraire, peu importe, ou de littéralement quelqu'un qui a décidé d'écrire sur le site, peu importe l'âge, peu importe le contexte. Je pense qu'il y a assez de maisons. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est de, lorsqu'on envoie un manuscrit, de trouver la bonne personne à qui l'envoyer. Et ça, c'est ce que j'essaie de dire sur le site d'Alto. J'essaie de dire, regardez le catalogue. J'ai eu une semaine un appel de quelqu'un, dit oui, bonjour, publiez-vous des livres? Je dis oui, ok. Non, mais c'est vrai, c'est un départ, tu sais. Et tu des histoires? Je dis oui, absolument, j'essaie de l'histoire, tu sais. Des histoires vraies? Je dis pas beaucoup, non? Des histoires d'anges? Non, j'avoue, tu sais. Donc vous êtes fait de la littérature, vous. La fiction, elle dit ça, elle dit la fiction. Je dis, oui, de la fiction, avec un grand F, je veux de la fiction. Elle dit oh non, moi, puis elle dit c'est plus de la littérature du 21e siècle. Je dis si vous voulez. Et pourtant, j'aurais dû dire non, Diane Chaperlin, Marguerite Laurence. Mais et là, bon, je dis ben là, je pense que non, on n'est peut-être pas à la même maison. OK, merci beaucoup, bye. Au moins, ça avait l'avantage d'être clair. Mais 90% de ce que je reçois est une erreur d'adressage. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai proposé, à un moment donné, à mon grand dame, parce que c'est excusez le terme, fuck all, que de faire le ménage là-dedans, de dire, je prends les soumissions de manuscrits par courriel. C'est peut-être la pire erreur. Cette volonté de pas avoir de papier, tout ça, c'est lourd, c'est plus dur à gérer, ça coûte cher aux auteurs, donc je dis, vous pouvez l'envoyer par courriel. Mais c'est ça, 90% de ce que je reçois n'est pas à la bonne adresse. Tu sais, les polars, les thrillers, les ci, les ça, c'est correct. OK, j'en fais pas. Donc, à partir d'un moment, je me sens mal à l'aise de refuser en disant que ça ne correspond pas à la politique éditoriale, ce qui me vaut des courriels de bêtises. Donc, c'est vraiment... Peut-être en étant plus clair dans sa définition, on éviterait ce genre de choses. Mais pour revenir à ta question, des Boréal, des Leméac ont quand même une capacité d'accueil beaucoup plus large. Et tant mieux, parce qu'ils le font bien, puis ils ont des équipes qui sont capables de mieux les travailler, et ce, dans tous les sens. Moi, je serais pas bon en littérature historique, je serais très mauvais directeur.
Mais en fait, à vrai dire, est-ce que ça veut dire que les auteurs qui vous envoient un manuscrit sans vérifier ce que vous faites, parce qu'ils considèrent que ils vous font une faveur en vous envoyant un manuscrit, puis...
J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit... lorsque vous allez en librairie, vous payez une vingtaine de piastres pour lire un livre. Moi, je vous l'ai envoyé gratuitement. J'aime beaucoup le terme des anglo-saxons qui est ce qu'on appelle la slush pile. Slush pile, c'est des manuscrits non sollicités. Et il y a des exemples. Rahouillage, Danny Rose Game, Parfum de poussière chez nous, slush pile. Jamais sollicité. Et lorsque je reçois des bêtises, puis j'apprends à être un petit peu plus bête avec le temps, c'est... Je reçois, vous m'avez pas envoyé de rapport de lecture et vous avez même pas pris le temps de me donner des cues, des... Je dis, bon, parfait, moi, je vous ai jamais demandé votre manuscrit. Je suis désolé de le dire, mais il faut être un peu cruel à partir d'un moment. Un auteur qui habituellement a la maturité pour regarder ce que publie un éditeur, c'est un signe qu'il y a une volonté de travailler. Il y a aussi l'auteur qui dit, moi, c'est un chef-d'œuvre, regarde, je te donne mon chef-d'œuvre, puis ça bouge pas, moi, c'est désolé, tu t'en vas ailleurs, tout de suite. L'œuvre en soi est perfectible. Il faut entamer un dialogue. Ça arrive aussi. Alors, c'est relativement rare que ça suive, je dirais, les voies traditionnelles du texte. Il est arrivé parfois, comme dans le cas de Catherine Leroux, c'est un texte qui a été envoyé chez 6 éditeurs. J'ai dit oui en 48 heures. On dirait que j'ai même pas fini le texte. J'ai appelé tout de suite, j'ai dit hop, on a quelque chose, le premier paragraphe me disait quelque chose, j'ai dit bon... je l'ai appelé, je dis, bon, qu'est-ce qui, tu sais, poser quelques questions, qu'est-ce que tu veux faire, tout ça, c'est quoi ton texte et tout ça. Puis il y avait quelque chose dans la voix, il y avait quelque chose dans l'assurance, il y avait quelque chose dans la façon de parler son texte, que je dis, bon, là, il y a quelqu'un qui est prêt à, d'après moi, il y a quelque chose de solide. Et ça, c'est rare parce que, ironiquement, elle a reçu je dirais pas qui, mais un accusé réception, qui était votre numéro de dossier, le 34B53-26. Je te jure, je me souviens même du chiffre. Pourquoi 34B et des chiffres? J'ai jamais trop compris. Ça fait Orwell comme truc. Mais ça, c'était 3 mois plus tard. Puis je pardonne à cet éditeur-là d'une façon. C'est pas être condescendant, c'est juste, c'est normal. Il y a une surproduction, une sursollicitation qui crée des gros délais. Alors, le silence d'un éditeur n'est pas en soi un signe que le texte n'est pas bon. C'est qu'il y a véritablement embouteillage solide dans les maisons d'édition. Donc, pour éviter ça, éviter de grâce les visites aux éditeurs pendant les salons du livre, c'est à peu près le pire moyen. Je comprends que ça prend des couilles et qu'il faut le faire, mais c'est vraiment pas la place ni le moment. Par contre, tu sais, un synopsis avec une lettre de présentation, pas de faute, ça aide aussi. Ça, c'est souvent, je le vois. Les fautes, à la limite, ça va, on en fait tous. Mais ça aussi, puis j'ai un chef-d'œuvre pour vous. Ça, quand ça commence comme ça. Ou bien une lettre de présentation qui dit « J'aime beaucoup la lecture et l'écriture. » Je sais pas, mais ça, c'est difficile. Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais ça, c'est juste moi. Hein. C'est un point de vue. C'est tout simplement que par peut-être petite expérience, comme ben juste 7-8 ans, c'est des erreurs communes. D'ailleurs, sur le site web d'Alto, j'ai dit « Ben, un synopsis. » J'ai reçu un coup de fil l'autre jour. « Excusez, monsieur, je suis sur votre site. » Je dis « Oui, parfait. C'est quoi un synopsis? » Bon, je veux dire, ouvre un dictionnaire, c'est le meilleur ami de l'écrivain, je sais pas. Je vais pas avoir l'air condescendant, je dis, ben, c'est un résumé. Ah, pourquoi vous avez pas écrit résumé? Je dis, bon, je vous dis, je pense, je vais attendez-moi 2 secondes, je vais changer mon site web, je vous reviens. Tu sais, je pouvais pas changer ça. Donc, il y a là quand même. Puis d'ailleurs, c'est un fait, hein. Il y a une histoire à un moment donné. S'il fallait que chaque personne qui écrit un manuscrit achète un livre, on serait tous millionnaires. Et c'est effectivement vrai, il y a du monde qui écrive et c'est fascinant. Mais qu'est-ce qu'ils achètent comme livre? Est-ce qu'ils lisent? J'avoue que je ne le sais pas, parce que c'est 600, mais Québec-Amérique, c'est 1200 par année. Montréal, c'est 1004, je pense, quelque chose comme ça. Divisé par 365 jours, enlevé le samedi-dimanche. vous vous retrouvez avec une surproduction absolument incroyable et beaucoup de cœurs brisés. Et voilà. Autre question? Soyez pas gênés.
Tu parlais de traduction tout à l'heure. Mm-hmm. Une bonne partie de la production d'Alto qui est en traduction et tu disais que l'œuvre est perfectible.
Dans ce cas-ci.
Mais est-ce que il y a des cas où justement le travail de la traduction fait en sorte qu'on prend une distance par rapport à l'œuvre d'origine significative?
Distance nécessaire, distance négociable, distance négociée. Le meilleur exemple, Scott Richardson, qui a fait La fin de l'alphabet, revient cet automne avec un livre qui s'appelle L'Empereur de Paris. Minute pub. C'est très bon bouquin. J'ai failli pas le prendre parce que j'arrivais pas à comprendre le projet de l'auteur parce que son écriture en anglais était telle, en anglais ils appellent ça le sparse prose. Oui, sparse. Déjà sparse. Ok, oui. Et la grammaire anglaise est faite telle que le lecteur est constamment chez Scott en train de remplir les trous, ce qui est fascinant comme dialogue avec le texte. Et en anglais, ça sonnait comme du cul, c'était affreux. Je savais pas quoi faire. Je et là, avec Scott, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit bon, on va prendre on a pris Vian, on a pris Maxence Fermin, qui est chez Albin Michel, qui fait des textes quand même intéressants. Steven Carrière, on a pris toute une espèce de réseau, on va appeler ça un réseau sémantique d'auteurs. Puis j'ai travaillé, il y avait 4 traducteurs qui ont fait une soumission sur un seul chapitre, anonyme, j'efface toute trace des traducteurs, je veux pas savoir qui tu es, n'importe quoi. Et là, on a essayé de trouver le bon ton, là, on s'est installé, puis on a dit lequel est, selon nous, serait la voix de Scott Richardson. Et dans ce cas-ci, ça a été un cas. Parfois, c'est relativement plus facile parce que chaque texte dicte un peu sa traduction. Mais dans le cas de Scott, c'était de retrouver ce mouvement du texte original. Et ça, c'était vraiment quelque chose. Ce qui me fait dire souvent que quand je lis un journaliste qui a pris à peu près quelque chose comme 1h30 pour lire un texte de 450 pages, dire « Ah, je sais pas si c'est la traduction, mais j'ai pas trippé. » Je trouve ça très cruel pour les traducteurs. Je trouve ça vraiment, vraiment cruel parce que traducteur, d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent l'être, là, faites-le. C'est dur de trouver des bons traducteurs. Ça prend des écrivains, ça prend des gens qui ont réellement une vision du texte et qui ont une latitude et qui prennent cette liberté-là. C'est dur à trouver. Moi, je travaille avec Sophie Voileau, Dominique Fortier. Je suis béni des dieux avec ces deux-là. Mais là, dans ce cas-ci, Scott, c'est Caroline Lavoie qui travaille à l'Université d'Ottawa. J'en ai essayé quelques fois, parfois justement avec le fait que je donnais des chances à même des gens qui avaient pas de bac en traduction, je m'en fous du CV. S'il fallait qu'on s'engage seulement sur le CV, pas mal de gens seraient au chômage, cruellement. Et dans ce cas-ci, c'est ça. Fait, oui, mais par contre, avec les traductions, j'ai souvent l'espèce de petite volonté de vouloir rentrer dans le texte et je le ferai pas. Donc, d'où le processus qui est beaucoup plus difficile, mais en même temps parce que sur sollicitation des textes canadiens-anglais, de sélection à ce moment-là. Je le prends, mais c'est des altos, mais ils viennent comme ils sont. Donc, à partir de moi, Salamander, par exemple, qui est un de mes textes préférés, qui était un des textes qui définissait alto, il y a 100 pages de trop. Mais c'est comme ça, il vient dans ses imperfections, tout comme certains textes québécois auraient mérité peut-être à avoir 50 pages de plus. Mais à un moment donné, t'arrêtes le processus, tu dis, il est prêt, tu demandes pas à quelqu'un qui est enceinte, de moi 2 semaines de plus, tu peux pas. Il y a comme un moment donné où, naturellement, l'auteur, habituellement, c'est le moment où l'auteur vient le voir le matin, je suis en train de le faire le présentement, où il me dit un matin, excusez-moi les termes, il me dit, Christ que je t'aime. Il a déposé le texte dessus, je suis plus capable de le voir. On a encore 2 mois dessus. Il sort au mois de mai, mais on le relit chaque mot, ça fait 40 heures qu'on travaille dessus, 50 à peu près. On va le relire à voix haute encore, on le lit une fois, on passe la grue dedans, puis après ça, je fais une dernière étape d'édition. À la fin, il veut plus me voir la face. Ça veut dire que c'est réussi. À ce moment-là, t'as atteint cette espèce de niveau où tu dis, regarde, je recule plus. J'ai tout donné dedans, puis là, habituellement, il y a un postpartum intense, qui est le temps où t'imprimes le livre, puis là, il t'appelle, puis il dit, non, je suis plus sûr. Puis là, il est déjà parti chez l'imprimeur. Ça arrive souvent. Ça, c'est vraiment un processus. Il y a des larmes, souvent, dans la mesure où tu sais, ceux et celles qui ont connu peut-être les années 80, souvenez-vous du slogan de Impulse, qui est un parfum en spray, infect, pas du tout bon pour l'ozone. Et c'était le slogan, je me souviens bien, on n'a jamais une seconde chance de faire une première impression. Et souvent, ben, comme c'est très intellectuel tout ça, j'ai dit ça aux gens en conférence, ça a l'air hétéro, puis c'est Impulse, en fait. Donc, voilà, on n'a jamais de seconde chance. Donc, c'est l'idée, avec le gars avec qui je travaille, Richard Dallaire, qui va sortir donc son texte au mois de le 7 mai, très exactement, eh ben, il veut avoir cette espèce de volonté de puis ça se travaille, de dire, quand je l'ai sorti, j'ai tout fait. Je l'ai amené là où je pouvais dans le contexte, alors je me donne de plus en plus de temps, parfois un an et demi. J'ai commencé à travailler un texte qui va sortir en automne 2014. Donc, on s'est donné un an. On va questionner le texte de A à Z. Puis quand on va le lancer, on va tellement être écœuré qu'on dit au moins on a tout fait. Donc s'il est mal reçu, ben au moins t'as l'avantage d'avoir, c'est peut-être comme ça qu'on est bon perdant dans une certaine mesure, ou bon gagnant, peu importe. C'est l'idée que peu importe la réception critique, t'auras amené le texte jusqu'à sa limite. Encore limite qui est tout à fait négociable. Si j'avais vraiment fini. Fait que non, effectivement, les traductions, c'est difficile. Fait que voilà. J'espère que je vous ai pas découragé du monde de l'édition. C'est correct. C'est bon, tu sais. C'est vrai, parce que dans une certaine mesure, c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Et si vous allez pas à Paris, c'est vraiment du monde très cool. Non, mais c'est vrai, je veux dire, je travaille avec des gens à Paris, je fais beaucoup de séparation de marché avec eux, et c'est un monde beaucoup plus fragmenté, segmenté, que de pénétrer dans les maisons d'édition. Vous avez des écoles, vous avez des hiérarchies, les stagiaires, c'est bon pour faire le café, pas au Québec. Vous avez déjà dans les boîtes qui sont Urtubis, qui sont du super bon monde, les CIREX, c'est des gens à A1. Cette espèce de volonté de travailler en groupe, en aire ouverte, qui est là qui se travaille, des gars comme Éric Larochelière, Simon-Philippe Turcot à la Peuplade, c'est du monde qui s'assoit, qui font des kilomètres. Moi, je fais tout le temps le train Québec-Montréal pour aller travailler pendant 8 heures de temps jusqu'à 3 heures du mat sur un texte, puis tu reviens. C'est peut-être ça, finalement, qui va nous sortir un peu du marasme actuel qui fait qu'on perd un peu confiance en le livre. Finalement, tu te rends compte que c'est peut-être le travail, moi je compare souvent le travail des petits éditeurs et des petites entreprises comme ici, par exemple, où vous avez des épiceries fines, des épiceries locales, des produits locaux qui bénéficient présentement d'une très bonne presse et d'un appui médiatique et dans les médias sociaux. Vous avez des petits produits qui gagnent la même notoriété et qui souvent vont même aller plus loin que le gros produit commercialisé à grands coups de publicité. Ça, je trouve, c'est un signe de vitalité dans une culture, ou à tout le moins dans l'exportation d'un produit qui soit culturel ou commercial, ou que ce soit de l'huile d'olive ou des livres de poésie, le processus est le même. C'est-à-dire, il y a une reconnaissance du travail artisanal qui est en train de se réinstaller. C'est peut-être pas les années 70, mais parce que là, on ajoute Facebook, toutes sortes d'affaires avec ça, là. Mais n'empêche qu'il y a quand même ça. Puis c'est peut-être le signe qu'on n'est pas en train de voir la fin, mais le début d'une nouvelle façon de voir des livres. Je vous donne un exemple. Moi, ça me coûte 3 fois plus cher faire des livres avec un estampage comme ça, faire de l'angle, faire de la bicro. Pourquoi je fais de la bicro? Ça m'a coûté la peau du cul, ce livre-là. Puis j'en ferai pas, je vous dis tout de suite, je fais pas une scène avec ce livre-là. Mais n'empêche que la personne qui vient te voir et qui revient te voir parce qu'elle a aimé tel ou tel type de livre, l'objet, les gens sont prêts à payer 2 à 3 $ de plus pour avoir un bel objet à l'ère où vous avez un EPUB, où les gens pensent qu'il faut tous le vendre. D'ailleurs, j'ai fait un test en conférence dans un cégep. J'ai dit, vous achetez un livre numérique, vous le payez combien? Il est 20 $. J'ai dit, à main levée. D'ailleurs, on va faire le test ici, pour le fun. Okay, ça va être la dernière chose, après ça, je vous laisse tranquille. Le livre est 20 $ papier. Vous l'achetez en EPUB. Bon. Il y a quelqu'un qui l'a fait, le EPUB. Il y a un coût de production qui est là, réellement, derrière. Pas beaucoup, mais il est là. OK. À main levée. Vous l'achetez à 20 $. C'est pas un prix winner. OK. Vous l'achetez à 18 $. Soyez pas gênés. 18, pas encore. Ooh, OK. On l'achète à 16 $. Je vais par tranche de 2, sinon ça va être long. 16, y a-t-il des gens qui l'achètent à 16? On parle quand même de, c'est quoi, grosso modo, 25% de moins? C'est pas mal. Vous savez? OK. C'est pas 16 $. Parfait. OK. Je retourne, je fais mes devoirs. Je vous dis 14. Oh! Quelqu'un qui aime les livres ici. OK. Intéressant. 12. Bien, 10. Ça s'appelle l'effet iTunes. C'est le chiffre magique à 10 $. 10, c'est le chiffre magique. 8, là, je vous parle même plus. Parce qu'à 8, votre auteur peut même pas survivre. Et je terminerai sur un petit exposé avec 25 secondes sur le livre numérique. 50% s'en va chez, 30% s'en va chez le libraire, 20% s'en va chez l'agrégateur numérique et votre diffuseur si vous respectez la chaîne traditionnelle, car ce ne sont pas les ventes directes chez l'éditeur. Et de là, vous avez 50% du prix numérique qui s'en va chez l'éditeur. Traditionnellement, ce qu'on appelle la clause d'agence, c'est 25% du prix net du livre. Donc, dans le cas de 10 $, ça veut dire 2,50 $. Le prix net, c'est-à-dire 2, c'est pas ça. c'est 25% de 5$, donc 1,25$. Je vous rappelle que le livre se vend en papier 20$, donc ça devait dire 2$ de droit d'auteur sur le papier. Et de là, vous séparez, vous reste à payer la production, qui est habituellement 300$ pour un hip-hop qui a de la gueule. Et vous débrouillez pour le reste, parce que n'oubliez pas une chose, si vous vendez un jour 20% de votre production numérique, vous devez adapter votre tirage du papier. Et donc, du coup, ce que vous printiez, admettons, excusez le terme anglais, à 1000 copies, vous le printez maintenant à 800 copies. Donc, votre coût unitaire, il monte. Et donc, vous vendez votre livre papier plus cher. Donc, du coup, vous créez un gouffre encore plus grand entre les livres numériques. Donc, pourquoi est-ce qu'on vend pas les livres à 10$? C'est parce que, justement, l'auteur doit, moi, dans mon cas, mes contrats sont, vous avez le droit d'auteur payé sur les livres papier. Il n'y a pas de raison que vous souffriez du support. Mais je peux vous dire que je fais moins d'argent sur le numérique que sur le papier. Si, pour les livres à petit tirage. Pour les livres à grand tirage, à un moment donné, on atteint un plateau. Mais à 10$, ce qui serait probablement idéal, si le libraire continue à prendre 30% et le diffuseur comme ça prendre 50%, il ne reste plus assez de marge pour donner au créateur. Puis là-dessus, je pourrais dire, bon, ben ok, je vais prendre ça comme la publicité, mais il y a quand même un travail éditorial qui est fait derrière. Donc c'est pour ça que l'économie d'échelle de la musique, qui nous a appris qu'un album qui se vend X$ se vend à 10$, est une image fausse. Et j'ai rien contre le 10$, je suis le premier à le payer 10$. Je serais bien content. Sauf que les CD là sont plus à 20$. Ils sont à 14,99$. Donc quand vous l'achetez à 9,99$, c'est pas 50% de rabais, c'est 30% de rabais que vous l'avez acheté. Mais ce prix-là, cet attrait du 9,99$, a littéralement, c'est le prix Amazon aussi, a littéralement créé une espèce de point de rencontre de tout le produit culturel. Que votre livre, ça vous change-tu quelque chose si le livre a 680 pages ou 250? Plus ou moins. C'est du hip-hop. C'est juste qu'il fait genre, je sais pas moi, 150, mais c'est pas les megs, là. Admettons, je sais pas moi, il y a un meg de plus parce que il y a... ça passe par courriel, pour vous dire, là, tu sais. Et ça change absolument rien. Mais vous allez vouloir le vendre quand même. Vous allez pouvoir, l'acheter à 10$. Donc c'est là où le numérique nous amène à repenser tout ça. Et moi, présentement, je pratique du 35%. En 35 et 40. Puis je prends les marges moi-même parce que le droit d'auteur est sur le droit papier. J'aimerais beaucoup faire des livres à 10$. Par contre, s'il sort en poche, il se vend de 20$, il sort en poche à 14$, là, il va être 10$. Parce que je vais adapter mon prix aux différentes éditions papier. Mais par contre, je vais toujours payer le premier droit d'auteur. Donc, quand je le fais en poche à 10$, je fais encore moins d'argent. Mais au moins, j'ai fait plus de ventes. Ça vous explique un peu le numérique. Oui.
Moi, c'est la question qui s'en suivait, justement, parce que j'avais remarqué qu'il y avait des grands formats qui sortaient à 20$. Ils vendaient le numérique à 15, puis après, les formats poches sortaient à 10, mais ils ne mettaient pas à jour leur prix.
Ouais.
Le numérique, dans le fond, c'est ça.
C'est une pratique qui est très européenne, celle-là.
OK.
Présentement, vous voyez, par exemple, Marina Levitska, j'ai pas les droits poches de Marina Levitska. Pas les droits, numériques de Marina Levitska, parce que c'est Génie qui a les droits poches. Et l'éditeur français veut pas me donner les droits numériques parce qu'ils ont peur que ça périlise, si on veut, ou ça crée un danger, que ça casse la chaîne du poche. Alors que ici, moi, je me suis dit, ben, écoute, dès qu'il est passé en poche, il y a une seconde vie, second départ, ben, on coupe. Mais effectivement, ça fait bizarre de vendre un numérique plus cher que le papier. Mais c'est peut-être la question que l'auteur lui a dit, ben, moi, tu vas me payer sur le premier format. Ça aussi, c'est peut-être possible. Donc, il faut s'adapter. Malheureusement, c'est là où l'UNEC devrait prendre un petit peu plus position. Le respect du droit d'auteur numérique devrait se faire beaucoup plus en dialogue avec l'ANEL, qui est notamment l'Association nationale des éditeurs de livres. C'est de la poutine, mais c'est une réalité, parce que tout ça est lié, c'est pour ça que j'en parle, à l'idée qu'on se fait de la valeur d'un livre. La valeur d'un livre, c'est pas son prix. La valeur d'un livre, c'est pas nécessairement le nombre de prix qu'il a gagné, c'est pas nécessairement sa valeur historique dans la littérature avec un grand L. C'est juste qu'à un moment donné, on peut pas solder les livres à ce point-là et les rendre disponibles au piratage, qui est un effet quand même qui est là, à un prix assez bas. Donc, présentement, les gens, surtout au Québec, on est beaucoup plus souple dans l'application des prix numériques que peuvent l'être, par exemple, les Français. Sauf peut-être Gallimard, qui a comme tellement de boîtes qu'il a décidé de tout numériser, là. Puis même là, ils pratiquent pas des prix extraordinaires parce qu'on parle de 25% en France. Donc ici, quand vous avez des livres à 50%, c'est intéressant. Mais il est vrai que de plus en plus, on devrait sérieusement songer à essayer de trouver une façon ou peut-être couper les coûts de production pour s'en aller vers les 10$. Parce qu'un album, c'est 10. Donc, l'idée d'un produit téléchargeable... Puis, excusez-moi, mais je terminerai vraiment là-dessus. Ça, c'est 34,95$. Le prix hip-hop, c'est 19,99$. C'est une bonne réduction. Mais voulez-vous me dire, bon Dieu, pourquoi vous achetez ce livre-là en hip-hop à 19,95$? Je veux dire, déjà, on est au taux de prix, sauf qu'il coûte ce qu'il coûte. Fait que ça, si je le mets à 50%, c'est encore 17,95$. Si je le mets à 10$, ben là, je m'excuse, là, je peux même plus payer le libraire. Fait qu'il reste plus de marge. Donc, c'est là où on se rend compte que le 9,99$ peut pas s'appliquer à des gros livres. Et surtout des livres qui ont la production comme ça. Pourtant, tu sais, c'est ce livre-là, vous voyez, c'est un fait à noter. Lui, il est 29,95$ parce qu'il coûtait assez cher. Vous pouvez l'acheter c'est d'ailleurs une première que j'essaye là dans les prochaines semaines. Vous allez pouvoir l'acheter séparé. À 99 cents ou à 2$ pour chaque histoire qu'il y a dedans. Au total, ça va faire à peine 1$ de plus que le prix régulier. Mais au moins, vous allez avoir la possibilité d'acheter petit. Vous allez acheter en microfiction, ce qui est un projet que je développe pour 2013, des livres à 1$. C'est quelque chose, je devrais peut-être même pas le dire parce que ça se fait pas au Québec, puis ça va être une première, mais ça va être l'idée de fragmenter. Mais ça se fait, ça, à 99 cents. Mais moi, mais chez les éditeurs plus, on va dire, plus assis, là, ça se fait dans les petites boîtes. C'est ça qui est le fun. C'est que les petites boîtes, ils osent que les gros, c'est pas. Là, moi, je me dis, bon, ben, ok, mais sauf que là, c'est intéressant. Ça, c'est décliner le livre en petits morceaux. Puis si on décidait de créer une boîte strictement numérique, faire juste des petits livres, c'est de la littérature aussi. À partir de ce moment-là, vous créez, nous, notre système complètement, puis vous revitalisez, il est temps que j'arrête, le livre, par la même occasion. Fait que voilà. Fait que merci beaucoup. Puis, continuez à discuter de tout ça.
Merci. Merci.